Vous êtes sur RTL.
RTL, bonjour Yves.
Il n'y a plus qu'à nous reconfiner, comme ça on n'aura pas froid.
Oui, mais le soleil revient, Yves. Vous savez ce que c'est, on reconfine et le soleil arrive et la chaleur aussi. Comme l'an passé.
Vous avez raison. Bonne journée Julien. Merci à toute l'équipe de nos petits matins et bonjour à tous. 18h ce soir, c'est la nouvelle conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran. Que vont-ils exactement annoncer? Quel type de restrictions? Confinement partiel, régional, total? Nous allons largement envisager toutes les hypothèses ce matin avec notre brigade RTL et Sophie Orange, notamment dès 7h15. À 8h20, nous serons avec l'un de ceux qui a recueilli les toutes dernières confidences du président de la République, le maire d'hiver droite de Poissy, Carl Olive. Il a accompagné le chef de l'État hier dans sa dernière sortie à l'hôpital. Autre thème de société qui fait débat, comment proposer plus de diversité au cœur de nos villes et dans nos noms de rues? La question est posée et Alba Ventura recevra ce matin la ministre de la Ville, Nadia Hay, et l'auteur engagé, Rachel Kahn. L'une et l'autre travaillent à cette mission délicate, mais sans doute nécessaire. Au chapitre des réjouissances, Laurent Ruquier et ses grosses têtes juste avant 7h30, Laurent Gérard à 8h45 et les coquilles Saint-Jacques toutes frétillantes de Cyril Lignac. Ce sera juste avant 9h. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
La région parisienne et les Hauts-de-France à quelques heures sans doute d'un nouveau confinement.
Restant déterminée l'ampleur, l'annonce sera faite ce soir. Une certitude, les chiffres continuent de s'envoler. La vaccination avec AstraZeneca pourrait reprendre d'ici la fin de la journée. L'Agence européenne du médicament rendra son avis dans l'après-midi. Salut hitlérien, croix gammée, malaise chez les militaires après une enquête de Mediapart révélant la présence de plusieurs néo-nazis parmi les soldats. L'armée promet des sanctions. Du théâtre, de la danse, un concert. Faute de salle ouverte, la ville de Lens propose la culture depuis la voiture. Un drive-in à l'ancienne, reportage à suivre. Et puis des nouvelles de notre amoureuse du métro parisien. Elle a retrouvé son bel inconnu, mais l'histoire s'est pas exactement passée comme prévu.
Aïe, aïe, aïe. Dès la fin du journal, la politique, Olivier Bost.
Et Emmanuel Macron, toujours à la recherche ce matin d'un nouveau confinement acceptable.
RTL Matin.
Sauf changement de dernière minute, c'est donc Jean Castex qui sera chargé ce soir d'annoncer les mauvaises nouvelles. Serrage de vis imminent en région parisienne et dans les Hauts-de-France. Deux zones où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte maximale. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Vous avez avec vous les derniers chiffres et sans surprise, aucune amélioration.
Avec 38 501 nouveaux cas en 24 heures, chiffre spectaculaire, on ne l'avait pas atteint depuis la deuxième semaine de novembre, au moment de la deuxième vague. Mais il y avait eu 6 417 nouveaux cas seulement lundi. Ce chiffre très élevé d'hier cache-t-il un rattrapage, une remontée de données dans le système ou la réalité d'une épidémie qui s'emballe? Pour avoir la réponse, il faut regarder l'évolution sur une semaine. Et là, pas de doute, plus 20% d'augmentation sur 7 jours. Le virus circule de plus en plus. Plus 20% aussi en Île-de-France. Et on sait très bien qu'une proportion de ces nouveaux malades vont se retrouver dans les hôpitaux dans 2 ou 3 semaines, dans des services déjà complètement saturés.
Sophie, on ne va pas se mentir. Impossible ce matin de vous dire ce qui sera annoncé ce soir. Personne ne le sait, y compris l'exécutif qui finira d'affiner tout ça dans la journée. Plusieurs hypothèses néanmoins sur la table.
Alors, confinement le week-end, confinement la semaine ou alors un mix des deux. Interdiction de sortir le week-end, sauf exception, mais toujours des libertés la semaine, en imposant toutefois par exemple au maximum le télétravail, en abaissant encore la jauge des mètres carrés pour l'ouverture des grandes surfaces. Tout est possible. Ce ne sera sans doute pas un copier-coller des mesures en vigueur dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais, plutôt une troisième voie. Les derniers arbitrages sont en cours. Seule certitude, ces mesures restrictives commenceront dès ce week-end.
Merci Sophie Orange. C'est un reproche que l'on entend souvent. Il n'y a pas suffisamment de lits de réanimation. Il suffirait de les multiplier pour gérer l'afflux de patients. Sauf qu'on ne met pas en place un lit de réa comme on monte un meuble suédois. Il ne suffit pas de pousser les murs. Il faut pour cela du matériel et du personnel formé. C'est le casse-tête quotidien des hôpitaux. À Port-Royal, dans le sud de Paris, une salle éphémère a été ouverte le mois dernier en quelques jours. Une prouesse dans ce contexte. Visite guidée avec Odile Pouget.
Direction le bâtiment de chirurgie ambulatoire en rez-de-jardin de l'hôpital.
Eh bien là, on est dans la structure, c'est-à-dire dans cette salle normalement dédiée aux patients après une intervention chirurgicale.
Le professeur Christophe Bayard, chef du service anesthésie-réanimation.
Qu'on a transformé en réanimation dite éphémère. Voilà, donc c'est un open space.
Pas de chambre fermée en effet, mais 5 petits box, tous occupés, et puis 5 autres lits, tout juste installés, séparés par un rideau. Le tout monté en un temps record.
3 jours. Parce que c'est pas la première vague. Et parce qu'on a anticipé.
Le matériel commandé est arrivé très vite. Respirateur, pousse-seringue électrique pour la perfusion de médicaments en continu. Et puis bien sûr, les lits.
Les lits d'hospitalisation normale, parce que les lits de réanimation, c'est pas facile à trouver.
trouver maintenant en pleine crise. Puis ça a un certain coût aussi, bien sûr.
Élie, médecin anesthésiste réanimateur.
Par contre, ces lits, pour qu'ils soient adaptés pour la prise en charge de malades de réanimation, on les a équipés par des matelas anti-escarres et compatibles avec la mise sur le ventre des patients.
Donc le poids du monsieur
18
500. Ok.
Ça, c'est les aspects techniques. C'est pas le plus compliqué.
Le plus compliqué, c'est de trouver le personnel soignant formé à la réa. Il faut par exemple une infirmière et une aide-soignante pour deux patients, et cela 24 heures sur 24. Devant son ordinateur, Catherine, cadre de santé, jongle avec les plannings.
Là, actuellement, on n'a pas de ressources extérieures ou très peu. C'est-à-dire avant la première vague ou la deuxième vague, on a eu beaucoup de monde de province ou autre. Là, on n'en a pas. On a un peu serré les dents, mais bon, maintenant, ça fonctionne.
Une réanimation éphémère appelée sans doute à fonctionner encore plusieurs semaines.
Un reportage signé Odile Pouget. La facture de cette crise et ce montant faramineux, le Covid aura coûté à l'État français plus de 160 milliards d'euros l'an dernier. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, précisant que ce chiffre n'était pas définitif.
L'Agence européenne du médicament doit donc rendre cet après-midi son avis très attendu concernant l'AstraZeneca.
Depuis plusieurs jours, ces experts tentent de comprendre s'il existe un lien entre le vaccin britannique et les rares cas de thrombose signalés. Sans attendre ces conclusions, l'OMS a de son côté incité les pays qui les ont suspendus à reprendre les injections. Lui, il est prêt à relancer la campagne. Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en est persuadé. La demande est forte et les Français raisonnables.
Évidemment, notre rôle, ça va être de faire de la pédagogie, ça va être d'expliquer. Aux gens qui se disent « mais quand même, j'ai peur de l'effet de secondaire de ce vaccin », je leur dis « ayez peur de l'effet secondaire du Covid » qui n'est pas rare et qui est la mort. J'ai confiance en la population pour comprendre l'intérêt de se faire vacciner, et tout simplement parce que toute la population subit la contrainte de ce Covid. Et ils veulent arrêter cette contrainte. Et je pense que cette force de pouvoir collectivement être solidaire pour arrêter les contraintes que tout le monde subit sera supérieure aux doutes sur la vaccination.
Benoît Elbout, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, propos recueillis par Philippe Demaria. Et puis le vaccin, qui n'a pas que des effets positifs sur la santé, mais également sur l'emploi. Le groupe pharmaceutique allemand Merck annonce la création de 350 postes et 25 millions d'investissements dans son usine de Molsheim, dans le Bas-Rhin, afin d'y fabriquer notamment des poches plastiques utilisées lors de la conception des vaccins.
Croix gammée, drapeau nazi, salut hitlérien, des nostalgiques du Troisième Reich dans les rangs de l'armée française. On en parle dans un tout petit instant.
RTL Matin.
RTL 7h07, la suite du journal Dominique Tenza, des néo-nazis. Parmi les militaires français, l'enquête de Mediapart sème le trouble au sein de l'armée.
Des messages à la gloire des SS, des drapeaux barrés de croix gammée, les documents recueillis par le journal en ligne ne laissent guère de doute quant à l'idéologie défendue par ces soldats. Le ministère a promis des sanctions lourdes. Il faut dire, Brice Dugénie, que les actes décrits sont particulièrement graves.
Oui, sur une vidéo publiée, on voit des enfants incités par le soldat qui filme à faire des saluts nazis. Puis au Sahel, un jeune enfant noir est forcé à faire des pompes dans le désert. En russe, le légionnaire l'insulte et l'humilie. Les saluts, les slogans, les tatouages à la gloire d'Hitler, Mussolini ou de la suprématie blanche s'affichent sur les réseaux sociaux et jusque dans les casernes. Le ministère des Armées enquête et condamne, Hervé Grandjean, son porte-parole.
Le ministère des Armées exprime une tolérance absolument zéro vis-à-vis de toutes les idéologies nauséabondes et extrémistes. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les quelques cas qui ont été révélés, si les faits sont avérés, les sanctions seront évidemment très lourdes.
Le ministère conteste le chiffre de 50 soldats et précise qu'un service est en charge de repérer les militaires aux idées extrêmes.
Nous faisons un travail avant chaque recrutement pour prévenir les incursions de ce type au sein du ministère des Armées. Aucun dispositif de détection n'est infaillible, mais nous faisons tout pour que les mailles du filet soient les plus étroites possibles et qu'aucun cas de ce type ne puisse s'insérer dans les rangs des armées.
Manifestement, les mailles du filet sont encore un peu trop larges.
Brice Dugénie. À l'étranger, ce nouveau coup de froid dans les relations entre les États-Unis et la Russie après une interview donnée par Joe Biden à la question « Pensez-vous que Poutine soit un tueur ?» Le nouveau président américain a répondu « Oui », sans préciser s'il faisait référence à l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Réaction immédiate de la Russie qui rappelle son ambassadeur aux États-Unis.
7h09. Une chouette initiative à Lens à présent, ou comment satisfaire ses envies de culture malgré la fermeture des salles.
En assistant à des spectacles en plein air sans sortir de sa voiture. Hier, sur le parking du stade Bollaert, il suffisait d'être bien garé pour admirer le spectacle. Un reportage de Franck Hanson.
Bienvenue dans le Drive Culture.
Face au stade Bollaert, des voitures se garent pour assister aux représentations, fenêtres ouvertes ou profitent de la musique. Sous une autre tente, une compagnie théâtrale retrouve un public.
Vous vous attendiez
sûrement à une belle histoire.
L'énergie qui est déployée pour qu'on puisse jouer aujourd'hui, c'est trop bien et ça fait vraiment plaisir.
Et les créneaux de réservation ont rapidement été remplis. Les habitants en redemandent.
Bah moi ça me plaît.
Impeccable.
C'est surprenant mais c'est agréable.
Ouais. Ça fait du bien. On se marre bien.
On n'a pas l'habitude d'être dans la voiture pour regarder un spectacle.
Ça avait du bien de ressortir et puis
de revoir les gens qu'on connaît.
De permettre aux artistes aussi de s'exprimer.
Ça manque énormément.
Pour l'association Porte-Mine qui organise régulièrement des manifestations festives dans ce bassin lensois, l'objectif est aussi de maintenir un lien social. La présidente Marie Forquier.
Il y a quand même des doses qui sont un peu essentielles dans la vie tout en sachant protéger les uns vis-à-vis des autres. Tout ne peut pas se jouer comme ça sur ce concept du drive. Hein. Mais effectivement, l'idée c'était quand même de proposer cette alternative et de montrer que... voilà, impossible n'est pas l'ensoi.
Et l'initiative sera bientôt renouvelée en fonction des contraintes sanitaires.
Impossible n'est pas l'ensoi.
Mais oui. Reportage de Franck Hanson. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont battu Lille 3-0. Réalisation hier soir signée Mauro Icardi et un doublé de Kylian Mbappé. Et puis en Ligue des Champions, le Bayern Munich rejoint les quarts de finale après sa victoire 2-1 face à la Lazio en match retour. Autre qualifié, Chelsea, victorieux 2-0 face à l'Atlético Madrid. Et puis je vous parlais hier matin dans ce journal d'Émilie, cette étudiante parisienne, vous savez, qui avait croisé dans le métro un bel inconnu dont elle était tombée amoureuse et qu'elle recherchait depuis désespérément. Eh bien, sachez que l'homme en question s'est reconnu, il a pris contact avec notre jeune amoureuse, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme elle l'aurait souhaité. Écoutez-la.
Au fur et à mesure des lignes, il s'est rendu compte qu'en fait, je parlais de lui, donc le mec a complètement halluciné. Il m'a dit qu'il avait adoré ma démarche, etc. Mais qu'il était en couple, et depuis 8 mois. Et moi, mon but, c'était absolument pas de casser un couple, ni quoi que ce soit. Malgré le fait que ça se soit pas déroulé comme je le pensais, je suis juste extrêmement heureuse, vraiment, de tout ça. Même au-delà de cette histoire en particulier, je pense que c'est juste des histoires d'amour en règle générale qui nous rassemblent vraiment en plus dans des moments comme ça. On est tous liés par un sentiment qui est très fort et qui est l'amour et qui nous surpasse un peu tous.
Voilà, pas rancunière, hein. Émilie, jointe.
Elle est surtout charmante.
Pour RTL par Jeanne Mézia.
Et lui s'est bien comporté. Hein.
Ouais.
Les courses, elles ont lieu à quand?
Avec les pronostics de Dominique Cordier, l'As, le 10, le 4, le 12. Le 3, le 5 et le 13. La dernière minute, c'est le 4. Good Moko.
Le journal de 7h vous était proposé par Dominique Terza. Il est maintenant 7h12, la politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors confinement, pas confinement, ce matin encore, faut patienter pour le savoir.
Hein. Et oui, ces 4 derniers jours, Emmanuel Macron a fait des déclarations et a eu plusieurs échanges sans que nous sachions, encore ce matin précisément, quelles sont ses décisions. Au gouvernement, le confinement le week-end pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France semblait acquis après le Conseil de défense hier matin. Mais Emmanuel Macron a reconnu hier soir auprès de plusieurs élus que l'efficacité et l'acceptabilité d'un tel confinement en région parisienne n'étaient pas évidentes. Il faut encore, a confié le chef de l'État, trouver des mesures efficaces. Le suspense continue donc pour 18 millions de Français.
Mais Olivier, c'est comme ça chaque fois qu'il y a une décision importante?
Ah, tout à fait, mais à chaque fois c'est de plus en plus fatigant et c'est d'ailleurs bien l'inquiétude d'Emmanuel Macron. Il y a une certaine fatigue sur les gestes barrières moins respectés, comme le couvre-feu, moins respecté aussi. Il y a une fatigue psychologique évidente et puis nous avons aussi tous collectivement un peu moins peur du virus. Tous ces éléments contraignent Emmanuel Macron à chercher une nouvelle forme de confinement et visiblement, et d'après plusieurs de ses proches, cette nouvelle formule n'est pas encore arrêtée. Seule certitude ce matin, elle sera annoncée ce soir à 18h par Jean Castex, le Premier ministre, et Olivier Véran, le ministre de la Santé. C'est le suspense jusqu'au bout.
Mais est-ce que nous pouvons dire qu'Emmanuel Macron hésite, je dis bien hésite, à reconfiner?
C'est une question que plusieurs responsables dans la majorité se sont posées ces derniers jours, et c'est bien le cas. Reconfiner, ça veut dire que finalement, le Conseil scientifique avait raison le 29 janvier dernier dans ses projections. Les variants ont pris le dessus et les courbes sont exponentielles. C'est une nouvelle épidémie, nuance le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Reconfiner, cela a des conséquences sociales, psychologiques, économiques très lourdes. C'est donc toujours en balance. Mais la réalité est là. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France, dans les Alpes-Maritimes et dans le Grand Est, la situation est clairement critique, a reconnu Emmanuel Macron hier soir avec des élus locaux. Les hôpitaux sont saturés. ça va taper fort et dur jusqu'à la mi-avril, a prévenu le chef de l'État devant eux. Emmanuel Macron doit donc se résoudre à de nouveaux confinements acceptables, des confinements qui ne s'appellent pas comme ça, pour ne surtout pas se dédire. C'est la formule, alors vraiment compliquée, je vous le concède, que cherche le président encore ce matin.
Et nous serons, je le précise, à 8h20 avec Carl Olive, qui est maire DVD de Poissy, qui était en visite à l'hôpital hier, avec le président de la République. Merci beaucoup Olivier Bosse. Tout à l'heure, Alba Ventura Roswell, deux invités, la ministre de la Ville Nadia et Rachel Kahn. Ensemble, elles travaillent sur une liste de noms de personnalités pour rebaptiser nos rues, nos écoles et mettre en lumière des Français dont les actions méritent d'être mises en valeur. Dans un instant, notre brigade de l'actualité va nous détailler les tout derniers chiffres de la pandémie. Plus de 38 000 nouveaux cas positifs hier, ce qui va obliger le gouvernement à annoncer de nouvelles restrictions ce soir. Nous passerons en revue les scénarios et leur efficacité. A tout de suite.
Yves Calvi sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h17, on attend donc des mesures a priori plus restrictives ce soir pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, 18 millions de Français qui pourraient vivre avec davantage de contraintes. L'épidémie flambe en tout cas toujours dans ces régions. En quelle proportion les couvre-feux et confinements déjà en place ne suffisent-ils plus? On va tenter d'y répondre avec notre brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors que disent les derniers chiffres? Toujours trop de nouvelles contaminations,
oui,
c'est ça?
Oui, avec par exemple 425 pour l'incidence en Île-de-France, nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, c'est plus 20% en 7 jours. La barre des 500 vient d'être franchie dans le Val-d'Oise et en Seine-Saint-Denis. Dans les Hauts-de-France, une incidence à 366, mais avec encore plus de 500 à Dunkerque.
Alors, le Nord et le Pas-de-Calais expérimentent depuis plusieurs week-ends un confinement. Est-il efficace? Sous-entendu, si cette mesure est décidée en Île-de-France, qu'apporterait-elle?
Alors, à Dunkerque, grâce notamment au confinement du week-end imposé depuis début mars, le taux d'incidence a été divisé par 2, mais il reste à un niveau très élevé, 500 donc. Le problème, c'est que la pression dans les hôpitaux est toujours très forte. Le nombre d'entrées continue d'augmenter cette semaine à l'hôpital de Dunkerque, malgré ce confinement. Le service de réanimation se remplit. Les quelques transferts donnent un peu d'air, mais pas assez. Dans le Pas-de-Calais, la hausse des nouveaux cas a été stoppée, mais c'est tout, si j'ose dire. Le confinement du week-end a sûrement joué un rôle, mais il y a aussi d'autres facteurs, vacances, un peu plus de télétravail. C'est toujours difficile d'isoler une mesure par rapport à une autre.
Et en Île-de-France?
Alors, on l'a oublié, mais on vit avec des restrictions depuis plus de 5 mois.
Mais oui.
Couvre-feu fin octobre, confinement en novembre, couvre-feu à partir de 20h en décembre, couvre-feu à partir de 18h depuis le 14 janvier. Sans variant anglais, cela aurait peut-être suffi. Oui. Mais comme il représente désormais 75% des nouveaux cas, les mesures de freinage sont insuffisantes, d'où les nouvelles restrictions annoncées ce soir.
Alors, on attend quoi de ce nouveau confinement total ou partiel? On ne sait pas encore.
Alors, faire baisser la pression dans les hôpitaux, oui, évidemment, en réanimation, faire baisser le nombre de nouvelles contaminations. On sait qu'un confinement strict, dur, type mois de mars, produit des effets en 2 ou 3 semaines dans les hôpitaux. Mais on ne connaît pas les conséquences d'un confinement hybride, seulement le week-end ou strict la semaine et moins le week-end. Le couvre-feu avait permis de faire baisser l'incidence de 15% cet hiver, mais uniquement dans les premières semaines et lorsque le variant anglais était minoritaire. Vous le comprendrez, c'est un peu l'inconnu.
Merci beaucoup Sophie Orange de la brigade RTL. Un an que l'épidémie bouleverse nos vies, mais le virus serait-il en train aussi de bouleverser la manière de faire de la politique? Du moins en tout cas, de faire campagne. C'est une tendance nette ces derniers temps. Les politiques s'invitent sur de nouvelles plateformes en ligne. Bonjour Jacques Sorel.
Bonjour.
Dites-nous, quels sont ces nouveaux réseaux sociaux?
Alors Yves, je ne suis désolé, je ne vous parlerai pas de Facebook. Aujourd'hui, c'est dépassé. Non, avez-vous entendu parler de Twitch ou de Clubhouse?
Oui, vaguement.
Eh bien, figurez-vous que c'est là que se ruent les politiques désormais. Même le Premier ministre, dimanche soir, Jean Castex n'était ni à la radio, ni à la télé, ni même à son bureau de Matignon, mais sur Twitch.
C'est formidable, je ne connaissais pas, je vous le dis, je l'avoue. On me dit que j'ai un côté, vous savez, un peu vintage.
En direct du domicile du journaliste Samuel Etienne et devant un écran d'ordinateur.
Alors, c'est quoi Twitch?
Une plateforme de vidéos en ligne, en direct, ça existe depuis 10 ans, mais jusqu'à présent, c'était surtout les fans de jeux vidéo qui s'y connectaient.
Et Clubhouse?
C'est le petit dernier dont tout le monde parle, mais qui reste encore confidentiel. Pour y avoir accès, il faut être invité. Ici, pas d'image, juste du son. Une fois connecté à un groupe de discussion, ça ressemble à une vaste conversation téléphonique.
On accueille Pierrot. Bonjour Pierrot.
Bonjour Boris, bonjour Pierrot.
Salut
bonjour
Pierrot.
Bonjour.
Dimanche, Marlène Schiappa était dans une room, comme on dit dans ce nouveau jargon. 45 minutes d'échange avec 240 personnes.
Mais dites-moi, c'est très peu.
Oui, il y a de quoi s'interroger sur l'utilité pour une responsable politique de prendre de son temps pour aller parler à si peu de monde. Mais la ministre chargée de la citoyenneté se justifie.
Quand on veut parler aux gens, on parle à plein de si peu de gens, pour reprendre votre expression. Quand je suis allée rencontrer les Gilets jaunes en préfecture de Sarthe, ils étaient 12. Donc 240 personnes, c'est déjà une belle salle pour un responsable politique. Et j'ai toujours dit que c'était aussi une manière d'avoir des capteurs.
peur. Parce que quand vous avez un dialogue direct avec les gens et que les gens vous posent des questions sur tel ou tel sujet, c'est un faisceau d'indices concordants pour comprendre que ce sujet est une préoccupation dans la population en ce moment. Et ça, c'est important. Et en cette période, avec les restrictions sanitaires, ça remplace ce lien absolument nécessaire avec la population.
Il y a une stratégie derrière tout ça.
Oui, tenter de parler aux jeunes, à travers eux aussi leurs parents. Et cela, quel que soit le bord politique. La France Insoumise a par exemple mis en ligne son propre réseau social, Action Populaire, et le Rassemblement National lancé le RN Podcast. Tous les partis, sans exception, s'y mettent. C'est loin d'être un hasard pour Jean-François Launay, directeur de Chan, un cabinet de conseil en stratégie et communication.
La campagne présidentielle classique, sur le terrain, avec des rassemblements, des meetings physiques, etc., elle est compromise, et donc les réseaux sociaux prennent une importance encore plus forte que la fois d'avant. Et puis l'autre aspect des choses, c'est que la communication électorale, elle a besoin de se réinventer. Ça n'est pas se rabaisser, c'est s'adapter. S'adapter à son époque, s'adapter aux usages, et donc s'adapter à ses électeurs. Finalement, ça réinvestit le champ des médias différemment, et ça va participer à essayer de retisser du lien avec des gens qui étaient en rupture.
Et ça, au plus haut sommet de l'État, on l'a bien compris. Quand il n'est pas sur TikTok...
À tous les étudiants, j'ai un message simple. J'ai conscience que je vous demande en ce moment beaucoup d'efforts.
Emmanuel Macron fait appel aux youtubeurs McFly et Carlito. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui anime désormais une fois par mois sa propre émission.
Ici, réunis à l'Élysée, en direct sur Twitch et sur YouTube.
La dernière, c'était avec des influenceurs, des anonymes, ne le prenez pas mal, Yves, devenu plus célèbre que vous chez les jeunes.
Ah bon ?
Il y avait notamment Fabian, un pro du maquillage sur TikTok, ou encore Enjoy Phoenix, encore plus connu. Elle, sa carrière, elle l'a lancée grâce à une vidéo expliquant comment se faire des boucles dans les cheveux avec un lisseur. C'est sûr, c'est un peu moins risqué que les questions des journalistes chevronnés, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé à Enjoy Phoenix, 3 600 000 abonnés.
Moi, je suis pas journaliste, d'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois, il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer parce que c'est pas mon métier.
Ah bah ouf, on a encore un avenir.
Oui, et peut-être pour faire le tri, séparer le bon grain de l'ivraie, car l'écueil de cette multiplication des canaux, c'est finalement de s'y perdre et que la parole politique devienne inaudible.
C'était passionnant, merci beaucoup Jacques Serret pour cette explication de la communication politique, en fait version 2021. Dans un instant, Isabelle Choquet pour le Tout Info. Auparavant, nos grosses têtes, la météo de Louis Baudin, puis une pépite musicale signée Anthony Martin.
TL Matin, Yves Calvi.
7h25, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avez-vous choisi pour nous ce matin ?
Alors, dans son livre Brassens et moi, sorti hier, Maxime Le Forestier rappelle une curiosité du répertoire de son maître. Georges Brassens avait mis 3 textes différents sur la même musique.
Ah oui ?
Oui, 3 chansons qui ont la même architecture, qui sont une variation de la même histoire et qui ont donc la même mélodie. Et lors de ses concerts en 2005, au cours desquels il a terminé d'enregistrer l'intégrale Brassens, eh bien Maxime Le Forestier s'amusait à les enchaîner. Voici la première chanson. Signé Brassens, chantée par Le Forestier, elle a pour titre « Le nombril des femmes d'agents ».
Je me fais vieux, j'ai mis cette idée durant le cours de ma vie. J'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombril de femmes de croquement, nombril de femmes de bougnat, femmes de jocrisse. Mais je n'ai jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police.
Ouais, jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police. Oui. Quand Brassens s'était retrouvé à Basdorf en Allemagne, réquisitionné dans le cadre du service du travail obligatoire, il avait écrit une version grivoise de cette chanson, version intitulée « La chaude pisse », également interprétée sur scène par Maxime Le Forestier.
Je me fais vieux, j'ai 60 ans, j'ai fait l'amour toute ma vie, sans avoir durant tout ce temps pu satisfaire mon envie. Depuis ma venue ici-bas, rien jamais ne me fut propice. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais eu la chaude pisse.
Et voici maintenant la troisième variation, plus poétique.
Ah,
il s'agit d'un texte de Gustave Nadeau, la chanson s'appelle Carcassonne.
Je me fais vieux, j'ai 60 ans, j'ai travaillé toute ma vie. Sans avoir durant tout ce temps pu satisfaire mon envie. Je vois bien qu'il n'est ici-bas de bonheur complet pour personne. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais vu Carcassonne.
Et voilà, ouais, c'est merveilleux. On trouve ces 3 pépites donc chez Brassens et dans le deuxième cahier de l'intégrale par Maxime Le Forestier, enregistré en public.
Formidable. On se dit à demain, cher Anthony. Et puis tout à l'heure à 9h dans Laissez-vous tenter, nous vous le rappelons. Nous aurons le plaisir avec Bernard Lehu et Steven Bellery d'accueillir Maxime Le Forestier pour parler notamment de Georges Brassens. Les grosses têtes, c'est une équipe avec ses amitiés, ses petites histoires. Ce matin, on s'intéresse au lien entre Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen avec une histoire de mimosa. Enfin bon, allez.
C'est vrai qu'il a dormi chez vous parfois.
Ah oui, puis moi chez lui, c'était un échange de bons procédés. J'aimais bien. Hein, je lui fais à manger parce qu'il ne cuisine pas. Alors là, on apprend des recettes. Je lui apprends à faire des œufs mimosa, des choses comme ça.
C'est quoi des œufs mimosa?
Bah, c'est des. C'est viril.
Eh ben.
Il a raison, Michel Faux. C'est quoi la recette des œufs mimosa alors?
Alors c'est des œufs comme des œufs mayonnaise. Tu fais alors tu fais des cuire des œufs durs et tu gardes le jaune des œufs durs que tu les graines.
Ah oui.
Vous les grainez.
Tu les miettes?
Ouais, oui.
Tu les
miettes. Grainer, mietter. Enfin oui, tu vois que ça fait un petit. Et donc c'est ça qui fait qu'on appelle mimosa.
Et il sait faire ça, Plaza, maintenant alors.
Ah bah c'est quand même pas difficile d'égrainer un œuf dur.
Non mais la mayonnaise
pour un vieux mou, oui.
Non mais c'est pas vrai. Alors pour l'émission inédite de jour, rendez-vous dès 15h30 avec Paul Elcarat, Christine Bravo, Elise Moon, Pablo Mira, Michel Bernier et Valérie Mérès. Il est 7h29, notre météo, bonjour Luc Bonnet.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer?
Non, pas encore, pas pour le week-end quand même. Mais pas aujourd'hui, non, aujourd'hui ça restera encore très nuageux. Alors même si ce matin on peut dire, tiens il pleut un peu moins.
Oui,
donc, oui mais c'est pas fini la journée. Donc petit à petit ces nuages vont être de nouveau un peu plus actifs, un peu plus instables. Et donc ils lâcheront ici ou là une averse. Alors c'est vrai que ce ne sera pas systématique, tout le monde ne sera pas concerné en même temps, mais enfin par précaution on prendra le parapluie encore ce matin même s'il ne sert pas longtemps, avec des averses sous forme de pluie ou de neige hein, évidemment encore, des 400-500 mètres sur quasiment tous les massifs. Alors pour échapper à cette grisaille, à ce risque de pluie, bah, il faudra aller vers la Bretagne encore une fois, oui là on aura un temps plus sec et plus ensoleillé, ou encore près de la Méditerranée où là avec encore beaucoup de mistral et de tramontane hein, 70-80 km/h, on conservera un ciel également beaucoup plus lumineux notamment autour du golfe du Lion. Ça n'empêchera pas quelques averses entre les Alpes et la Corse. Et puis côté température, c'est un vent de nord qui s'installe. Ah. Donc on retrouve quelques gelées déjà ce matin en Lorraine, Alsace, Franche-Comté ou encore du côté de l'Auvergne. Même chose sur les monts d'Arrée en Bretagne, où avec le ciel plus dégagé, ça a légèrement gelé. Et cet après-midi, où là, bah, ça sera plus de saison, 7 à 9 degrés seulement dans la moitié nord, alors qu'on devrait avoir 13 à 14 degrés en ce moment. On sera entre 9 et 11 degrés en Bretagne et dans la moitié sud, alors qu'on devrait atteindre les 15 degrés et 12 à 14 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Le Bodin. Merci à vous qui nous écoutez. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30 Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 18 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et avant toute chose, je vous propose d'écouter l'appel d'une petite fille. Elle s'appelle Chloé, elle a 10 ans et elle habite en Isère. Chloé a une mamie qui vit dans un EHPAD et elle n'a pas pu la voir depuis un an. Elle le vit très mal, alors elle a décidé d'écrire à Emmanuel Macron.
Cher Président, j'aimerais que les enfants puissent aller voir leurs grands-parents dans les EHPAD, car aujourd'hui, c'est toujours impossible. Ma mamie me manque déjà presque un an que je n'ai plus le droit de la voir. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer et ne sait déjà plus qui je suis. Je voudrais pouvoir l'embrasser avant qu'il ne soit trop tard. Que pouvez-vous faire pour moi, Monsieur le Président ?
C'est toi qui as décidé d'écrire cette lettre ?
Oui, c'est moi qui ai décidé. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas pu la voir, que j'ai envie de la prendre dans mes bras.
L'appel de la petite Chloé au micro RTL de Serge Puyot.
Un an après, Emmanuel Macron de nouveau confronté au dilemme du confinement. En
fait. Un nouveau tour de vis est attendu en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, deux régions qui regroupent à elles seules 18 millions de Français. Jean Castex et Olivier Véran dévoileront les nouvelles restrictions ce soir à 18h. Le président a donné le ton hier soir dans un entretien avec des élus locaux. La situation est clairement critique. Ça va taper très dur jusqu'à la mi-avril. Voilà ce qu'il a dit. Les chiffres sont là pour l'attester. 38 000 nouvelles contaminations sur les dernières 24 heures. C'est le plus haut niveau depuis novembre. On compte toujours environ 4200 patients Covid en réanimation, dont un quart en région parisienne. Mais pour le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, il ne faut pas reconfiner trop strict.
Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on ait un confinement dur de type mars, parce que c'est une chose de le demander quand on habite dans une maison avec un jardin, c'est une chose de le demander quand on habite dans une tour de 13 étages. La vérité, c'est que ça sera très compliqué à faire respecter. Mais oui, on souhaite avoir des mesures de freinage, mais les bonnes, les plus adaptées. En Seine-Saint-Denis, on a besoin à la fois de massifier la vaccination et d'élargir plus jeunes et en particulier aux actifs.
Le maire de Saint-Denis au micro RTL de Vincent Serrano. L'exécutif pourrait choisir de limiter le confinement au week-end, histoire d'épargner l'économie, car sans faire du parisianisme, Éric Vanier, l'Île-de-France n'est quand même pas une région comme les autres.
Confiner la région parisienne, effectivement, n'a pas le même impact qu'ailleurs. Il est décuplé par le nombre de personnes touchées déjà, 12 millions, presque un Français sur 6, car pas question de limiter le confinement à quelques départements de l'Île-de-France, ça n'aurait aucun sens. Toutes les communes se touchent. Les conséquences économiques aussi seraient démultipliées, car la région parisienne, c'est un peu le cœur économique de la France. 30% de la richesse nationale, un emploi sur 5 s'y trouve, et même 1 sur 3 si on prend les cadres et les chercheurs. Plus de 900 000 entreprises y sont implantées, dont la plupart des grands groupes et surtout des centaines de milliers de petites entreprises. Dans le secteur du commerce et des services, 230 000 d'entre elles et leurs 630 000 salariés pourraient être directement impactés par un confinement.
Éric Vanier du service économie d'RTL. En ce qui concerne la vaccination, AstraZeneca est toujours suspendue pour des soupçons d'effets secondaires, des cas de thrombose, mais l'Agence européenne du médicament doit rendre un avis très attendu cet après-midi. Le procès Big Malion est finalement reporté au 20 mai. L'avocat d'un des prévenus est malade du Covid. Nicolas Sarkozy doit être jugé dans cette affaire pour le financement de sa campagne de 2012 via un système de fausses factures. On en vient à ce terrible accident hier soir dans la Loire. Un groupe de 18 cyclistes, essentiellement des adolescents, a été fauché par une voiture qui arrivait en sens inverse. Un garçon de 14 ans a été grièvement blessé. Il est entre la vie et la mort ce matin. Les autres sont en état de choc. Et le président du club Espoir Cycliste de Saint-Étienne, Philippe Besson, est consterné.
On ne va pas accabler l'automobiliste qui a fauché nos coureurs, mais un sentiment d'écœurement. C'était une route large, voilà, une voiture en pleine ligne droite qui traverse la route pour faucher un groupe de jeunes cyclistes. Quand je vois la détresse psychologique de ces jeunes, désarroi des parents qui les ont encouragés dans leur passion. Il faut impérativement que les automobilistes, quand ils croisent un groupe, prennent la mesure qu'eux sont protégés par la carrosserie de leur voiture. Les cyclistes n'ont que leur corps pour se défendre.
Propos recueillis pour RTL par Raphaël Vantard. Aux États-Unis, Joe Biden vit sans doute sa première crise diplomatique. Moscou vient de rappeler son ambassadeur à Washington. Réaction aux déclarations du président américain dans une interview. On lui a demandé « Pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur ?» Il a répondu « Oui », mais sans allusion à l'opposant Alexei Navalny.
7h35, le foot. Le PSG s'est qualifié donc sans souci pour les quarts de finale de la Coupe de France.
Victoire sur Lille 3-0 au Parc des Princes. But d'Icardi et doublé d'Mbappé. Plus un arrêt décisif du gardien parisien Keylor Navas sur pénalty. Des Parisiens en grande forme donc, mais des Lillois aussi en dessous de leur niveau, selon leur entraîneur Christophe Galtier.
On est éliminé. C'est un score qui peut paraître sévère, mais il faut avoir beaucoup de frustration. Je crois qu'on les a un peu trop regardés jouer. On n'a pas fait un match de coupe. Sur la totalité du match, il en manque beaucoup. On ne peut pas rivaliser contre Paris si on joue qu'une période. Ça, c'est un fait bien établi.
Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot. Et pour terminer, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez son visage et surtout sa voix. Le comédien Jacques Frantz est décédé hier, il avait 73 ans. Pendant près d'un demi-siècle, il a été la voix française de Robert De Niro, notamment dans tous les Scorsese et dans Malavita de Luc Besson.
La seule véritable question qu'on devrait se poser durant son existence, c'est combien vaut la vie d'un homme ? Moi, je vaux 20 millions de dollars. Et je serai prêt à tout rendre jusqu'au dernier centime pour retrouver ma vie d'avant.
La belle voix chaude de Jacques Frantz, qui avait également doublé Mel Gibson, entre autres dans L'Arme fatale. Au cinéma, il avait tourné une trentaine de films.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et Isabelle, ce matin, leçon de mathématiques. Yvon parlera de ces dingues qui tentent de mémoriser un maximum de décimales du nombre pi.
Ouh là là, François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous êtes bien entendu l'un de nos spécialistes du chiffre pi.
Du nombre pi, oui.
Oui, du nombre, pardonnez-moi, oui. On a souvent décrié l'ubérisation de la société, mais c'est en train de changer.
Oui, en fait, le modèle d'Uber se trouve mis à mal par une décision de justice. Et derrière, c'est toute l'économie et la demande qui pourrait se trouver bouleversée. Je vous raconte ça tout de suite.
A tout de suite pour l'Anglais Co avec François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Oui. Uber, la société de VTC, annonce qu'elle va accorder à ses 70 000 chauffeurs britanniques le statut de salarié, François.
Une révolution. Hein. Jusqu'à présent, ces chauffeurs Uber travaillaient sous le régime des indépendants en étant payés à la tâche, sans protection sociale et sans garantie aucune. Et voilà que la Cour suprême britannique, saisie par des chauffeurs, a décidé qu'ils devaient être considérés et payés comme des salariés, qu'ils avaient notamment le droit à des congés payés et à des cotisations retraite, parce que leur donneur d'ordre exclusif, c'est Uber. Et ils sont évalués par Uber. Le rapport de dépendance exclusive est donc avérée pour la justice et la société californienne se soumet à la juridiction ultime britannique. Elle accepte de considérer désormais ses chauffeurs comme des salariés après 5 ans de bataille dans les tribunaux. Ça va lui coûter bien plus cher.
En quoi cette décision d'Uber est-elle une véritable révolution, François ?
Parce que ça remet en cause non seulement le modèle économique de la société Uber elle-même, mais oui, celui de toute l'économie des VTC et des livraisons de repas. Tout ce qu'on appelle l'économie à la demande, qui fonctionne, vous le savez, avec une appli sur smartphone reliée à une plateforme. Pour l'instant, cette décision ne concerne que les chauffeurs du Royaume-Uni, mais il est probable que l'accord fasse tache d'huile et que le même type de règles s'applique demain à Uber Eats, à Deliveroo et tous les autres qui emploient d'innombrables livreurs indépendants sillonnant nos villes, surtout en ces temps de confinement.
Bon, alors ça va coûter plus cher à Uber, mais on ne va quand même pas verser de larmes, non ?
Non, mais derrière Uber, Uber réputé le méchant capitaliste, il y a un autre personnage, encore plus tyrannique. C'est lui qui a profité de cette forme d'emploi sauvage, payé à la tâche. C'est lui qui veut une flexibilité sans limite. C'est le consommateur.
Ah bah alors,
c'est lui
alors,
qui finalement... Exactement, vous et moi, c'est nous qui finalement sommes visés par le jugement de la Cour suprême.
Mais alors vous voulez dire que l'exploiteur, c'est le consommateur ?
Écoutez, je ne le dirais pas forcément comme ça, mais on est tous devenus ainsi, impatients dans la satisfaction de nos désirs de consommation. On veut tout, tout de suite. Nos repas à commander, bien sûr, mais aussi une voiture pour faire nos déplacements, la réparation de nos appareils, le dépannage de notre ligne Internet. C'est du reste l'Internet qui nous a habitués à ça. En un clic, tout est accessible sans délai. Il nous faut désormais le même temps de réponse pour l'économie physique, d'où une injonction de flexibilité totale à nos prestataires de services comme Uber. Je veux tout, tout de suite, au moment où je le souhaite, moment par définition imprévisible.
Alors au bout du compte, est-ce que c'est cette flexibilité qui est aujourd'hui remise en cause ?
Oui, oui, ou plutôt son prix. Jusqu'ici, quand le consommateur exige de la flexibilité vis-à-vis d'Uber et d'autres, bah, ceux-ci la refacturent en quelque sorte à leur chauffeur, sous la forme d'emplois précaires. Bah, il est probable que désormais, le rapport de force va s'inverser. Les chauffeurs étant mieux protégés, la plateforme va cette fois-ci refacturer les coûts supplémentaires qui en découlent aux consommateurs. Autrement dit, c'est nous qui allons régler les congés payés des livreurs et... ça n'est pas aberrant.
C'est donc une évolution qui pourrait devenir une révolution. Merci beaucoup François Langlais. Langlais Co est à retrouver tous les jours sur, bien entendu, et toute la journée sur le site rtl.fr. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Il est 7h41, vos invités ce matin, EES.
EES, exactement. Oui. Nadia Hay, la ministre de la Ville, Rachel Kahn, auteur, actrice, scénariste et juriste. Elles viennent nous présenter Portrait de France, ce recueil des héros de la diversité voulu par le président pour en faire les futures plaques des rues, des places et des quartiers.
À tout de suite avec vos invités sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Nadia Hay et Rachel Kahn.
Et bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous ce matin sur RTL. À la demande du président, vous avez travaillé à un recueil de noms de personnes issues de l'immigration des Outre-mer, des anciennes colonies. Ça s'appelle Portrait de France. On va y revenir, mais je vais d'abord prendre une minute pour vous présenter toutes les deux. Vous, Nadia Hay, vous êtes la ministre de la Ville qui porte le projet au nom du président Macron. Vous venez d'avoir 41 ans, pur produit de la méritocratie. Vous êtes née à Trappes, dans les Yvelines. Vos parents sont tous deux d'origine marocaine, un père ouvrier, une mère au foyer, 4 enfants. Et vous avez obtenu un BTS compta. Vous avez grimpé les échelons dans la banque avant de vous embarquer en politique. Vous, Rachel Kahn, vous avez 45 ans. Vous êtes juriste, scénariste, actrice, écrivain. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire Racé, un livre qui ne manque pas de faire parler. Vous êtes juive polonaise par votre mère. Du côté de votre père, vos racines sont sénégalaises et gambiennes, où se mêlent religions musulmanes et catholiques. Vous dites afro-yiddish. Vous êtes née à Tours, dans un milieu plutôt intellectuel, père prof, maman libraire. Votre parrain était le regretté Manu Dibango. Vous faites partie du comité qui a sélectionné les noms. Voilà, j'ai planté le décor, je crois que c'était nécessaire. Nadia Hay, Madame la Ministre, ce recueil, ce catalogue, Portrait de France, à quoi cela va servir exactement ? Est-ce que c'est d'abord un outil pour les collectivités ?
C'est aussi un outil pour les collectivités. En tout cas, cet ouvrage leur est destiné. Parce que c'est pour répondre justement à l'appel du président de la République de donner des noms de rues, des écoles, des médiathèques. En fait, tous ces lieux qui font vivre la République dans nos territoires. Et donc, l'idée, c'était effectivement de mettre à l'honneur des portraits avec un comité scientifique qui se repose sur des travaux documentés, référencés, et qui puissent justement proposer des noms pour atteindre cet objectif.
Alors j'ai vu que ça pouvait aller de Louis de Funès. Alors Louis de Funès, pourquoi ?
Quelles sont ses origines ? Comité scientifique. Il est espagnol.
Oui, jusqu'à Paulette Nardal, première femme noire à étudier à la Sorbonne et à siéger à l'ONU. D'abord, rassurez-moi, Madame la Ministre, on ne va pas débaptiser des rues.
Absolument
ni
pas.
Des places.
Enfin, il n'est absolument pas question de débaptiser. Il est question justement de donner une place à tous ces profils, à tous ces portraits qui ont participé, qui ont fait aussi la République, qui se sont engagés à travers leur art, à travers leur combat, parfois jusqu'au sacrifice, parce que certains ont y laissé leur vie. Et donc, c'est de pouvoir les honorer et de leur faire leur place dans cette République et que chacun de nos concitoyens puisse se reconnaître aussi dans ces visages de la République.
Alors, Rachel Kahn, vous avez donc fait partie de ce comité scientifique. 18 personnes chargées de sélectionner les noms. À 18, ça ne doit pas être simple. Mais qu'est-ce qui était important, vous, dans votre choix ? Qu'est-ce qui vous a guidé ?
Moi, ce qui m'a guidée, c'est l'universalisme de certaines personnalités qui ont marqué la France et qui sont devenues, alors qui étaient en France et qui ont effectivement œuvré au sein de notre pays, mais qui ont aussi une lumière intérieure qui est de l'ordre international, en fait, qui est presque... Bon, évidemment, je pense à Manu Dibango, mais aussi à Joséphine Baker, qui font partie de notre patrimoine mondial de l'humanité, tellement elles ont un caractère de résistante ou bataillé pour leur art et qui ont déployé en fait une énergie qui a apporté à l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin, notamment pour les jeunes générations, dans un contexte assez victimaire, d'avoir des têtes hautes qui ont marqué la France comme ces personnalités-là.
Il y a eu bagarre entre vous, les 18 ?
Bien sûr. Oui. Oui, complètement. Beaucoup de débats, c'est très intéressant, alors qu'aujourd'hui, on manque de débats démocratiques, d'être pas du tout sur les mêmes lignes, et de pouvoir, malgré tout, aboutir à ces 318 personnalités.
Nadia, il y a eu des quotas, il fallait des quotas d'outre-mer, de gens issus des anciennes colonies.
Aucun quota, aucune instruction de notre part. On a bien voulu décorréler le fait scientifique des chercheurs et des spécialistes, en fait, du politique. Parce qu'il ne faut pas, justement, avoir cette influence-là. Donc, aucun quota.
Alors, j'ai vu qu'on avait quand même tenté de vous influencer. Enfin, certains, par exemple, alors, peut-être Jean-Michel Blanquer qui voulait plus de héros de la laïcité, peut-être Elisabeth Moreno qui voulait plus de femmes, la ministre de l'égalité des femmes et des hommes. Il paraît que les Réunionnais, les Marocains, ne s'estimaient pas assez représentés.
Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que à l'issue la remise du rapport et quand il a été rendu public, j'ai eu plein d'appels en disant on aurait aimé avoir plus d'Asiatiques. Est-ce que vous êtes sûr que la proportion entre Marocains et Algériens est bonne ? Et en fait, l'idée, c'est même pas de. Je me dis que si on commence à arriver dans ces points de discussion et presque, j'allais dire, du détail, eh bien, c'est que quelque part, on a atteint l'objectif qui est de mettre à l'honneur justement les diversités, qu'elles soient d'origine, qu'elles soient territoriales. Parce que les Outre-mer, on parle de diversité territoriale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'objectif qu'on a voulu atteindre et visiblement, il est atteint.
Mais il y a quand même moins de femmes que d'hommes.
Oui. En même temps, l'histoire, et ça, je crois que je parle vraiment sous le contrôle de Rachel, et elle voudra peut-être abonder dans ce sens-là, c'est que l'histoire, elle était faite par des hommes, presque pour des hommes. On était dans une société patriarcale. C'est pas Elisabeth Moreno qui me contredira sur ce sujet. Si on prend la liste des vivants, on aura certainement beaucoup plus de femmes qui seront mises à l'honneur.
Une question pratique. Les maires l'ont entre les mains dès maintenant et ils vont pouvoir consulter ce recueil et décider de baptiser un gymnase, par exemple.
Tout le monde a entre les mains ce recueil parce qu'il est public sur le site du ministère de la Cohésion des Territoires.
On le télécharge, c'est ça ?
On peut aller le chercher. Il y a même un filtre de recherche qui
fait 500 pages.
Il fait 500 pages. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une recherche par lieu géographique de sa région et donc aller ou par secteur d'activité professionnelle et donc aller chercher le portrait qui pourrait nous intéresser.
Rachel Kahn, qu'est-ce qui était absolument nécessaire à l'heure où certains veulent déboulonner des statues, où le débat sur le colonialisme revient en force, où la fracture identitaire fait rage ? Est-ce qu'il fallait rappeler que la France est un mélange une terre d'immigration, ou est-ce qu'il fallait réparer, combler des oublis, des manques ?
C'est un peu les deux. Mais moi, ce qui m'a importé vraiment de manière personnelle, c'est le fait que ces personnalités-là ont oublié de quel pays elles étaient. Vous avez vu, sur De Funès, on l'oubliait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une réciprocité dans cette notion, alors qui crispe parfois, d'assimilation. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ils avaient épousé la France, et pour certains, ils en avaient fait leur deuxième amour. Et en même temps, ils ont redonné aussi à la France. Et je pense que ça, on est les héritiers de ça. Et c'est ce que j'avais envie, moi, de m'investir dans ce travail-là.
Mais ça va aider, Madame la Ministre, à se sentir français ?
Ça va surtout aider à se reconnaître en la République. 318 portraits. C'est tout autant de personnes qui vont susciter un intérêt, éveiller une émotion.
Mais donnez-moi un exemple.
Je vais vous prendre un exemple qui est le mien. C'est-à-dire que je découvre ce portrait. Et en feuilletant, je tombe sur une personne qui n'est pas connue en France, mais qui est connue dans toute cette génération d'immigrés du Maghreb. Je prends Sheikha Rimiti. C'est la pionnière du rail. C'est celle qui a importé presque le rail en France, qui l'a fait connaître. Cette femme, il faut reprendre son histoire. Elle a chanté devant des hommes. Elle a été censurée. Elle a été insultée. Et elle porte en elle ce message de féminisme, ce message de liberté, parce qu'elle quitte l'Algérie en fin des années 70, à presque 50 ans, pour renaître, pour revivre, vivre son art, transmettre ce message. Et je pense que ça, c'est aussi un signal fort qu'on envoie à cette génération, comme la mienne, qui a bien évidemment écouter ces chansons.
Rachel Kahn, vous faites un travail de dialogue avec des jeunes de banlieue, des jeunes dont la plupart rejettent les valeurs de la République et rejettent la France. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Déjà, c'est un travail qui mérite un peu de temps. Moi, je suis beaucoup sur, effectivement, leur sentiment de victime et surtout sur cette forme de réparation. C'est une génération à la fois, comme le dit Caroline Fourest, génération offensée, génération blessée. Et pour moi, ce recueil, c'est pas simplement donner des noms de rue ou tout ça, c'est plus un patrimoine immatériel qui peut servir justement dans le dialogue avec les jeunes pour dire voilà, on a des personnalités qui ont gardé la tête haute, qui n'ont pas lâché, qui ont pris leurs responsabilités et qui n'ont pas attendu que l'État leur donne quelque chose pour pouvoir s'inventer un récit.
Mais c'est pour mettre des gens derrière le vivre ensemble, la diversité, la mixité, ça sert à ça ?
Tout ce que je déteste, moi.
Oui, c'est tout ce que vous détestez. Ouais. Tous ces mots-là.
Tous ces mots-là, parce que là, on a des récits de vie. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des récits. Ces mots-là, pour moi, ce sont des mots qui, depuis 30 ans, ne vont nulle part. Et c'est ce que j'explique dans mon ouvrage « Racé ». Avoir quelque chose de plus concret et sortir de ces mots qui enferment et qui tournent en rond, voilà, ça fait du bien.
Nadia, et elle a raison, Rachel Kahn, quand elle pointe ce qui instrumentalise la société ou qui instrumentalise les jeunes à coups d'idéologies telles que indigénistes, racialistes ou racialisées, je ne sais même plus comment il faut dire, intersectionnelles, et j'en passe et des meilleurs. Elle a raison.
Moi, je suis contre tout ce qui forme une certaine division. Et typiquement, vous avez ceux qui prônent la haine et la division. Ce recueil, il est là pour promouvoir l'unité. Et l'unité, c'est de dire, et je le disais...
Et ça, c'est facile à dire.
Oui, mais justement, c'est facile à dire parce que l'unité, elle ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit à travers différents projets, à travers différents signaux, à travers différents témoignages. Et les 318 personnalités, ce sont ces signaux, ces témoignages, parce que finalement, il faut dire aussi à ces jeunes, regardez, ces portraits ont marqué l'histoire de France et pour autant, ils vous ressemblent. Et donc, c'est ça la République. C'est la République, c'est ce en quoi on peut se reconnaître aussi et s'identifier. Et donc, c'est tout le travail qui est derrière tout ça. Et je rappelle juste une phrase du président de la République qui dit que l'histoire, en fait, c'est la conjugaison de toutes les histoires. Et ça, c'en est un exemple et une illustration.
Romain Gary disait « Nous sommes tous des additionnés », je le cite parce que vous le citez beaucoup dans votre livre. Votre livre, Rachel Kahn, a provoqué quand même une petite polémique au sein de l'association que vous co-dirigez, l'association La Place, association culturelle de hip-hop, qui s'est désolidarisée donc de vos propos. Polémique qui va jusqu'à l'Hôtel de Ville de Paris, qui finance l'association, où l'adjointe à la culture d'Anne Hidalgo a eu ses propos.
C'est ça qui est un peu drôle quand on écrit un livre. Drôle.
Donc ça vous sert.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans cette cancel culture. À partir du moment où on s'exprime...
Cancel culture, c'est le fait
de le devoir de se taire, alors même qu'on a quand même en France une liberté de penser. Les gens qui sont dans les 318 personnalités, moi je sais Manu et autres, ils avaient cette liberté de s'exprimer. Et aujourd'hui, on est un peu contraint parce qu'on a une couleur de peau qui vous oblige à avoir une pensée.
Je vous remercie toutes les deux, Rachel Kahn, Nadia Hay. Portrait dans France est donc le recueil qui est à consulter sur le site de votre ministère. Et puis Racé, que vous publiez, Rachel Kahn, aux éditions de l'Observatoire, avec cette phrase que j'ai beaucoup aimée en première page. Je veux aujourd'hui annoncer la couleur, je suis bien dans ma peau.
318 personnalités, pas de quota, vient de nous dire Nadia Hay. Il n'est pas question de débaptiser les noms de rue, mais d'ouvrir à de nouveaux visages de la République. Un patrimoine immatériel, précise Rachel Kahn. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec le surf de Cyprien Sini.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Il est 7h56 et vous surfez ce matin avec les lectures de Marlène Schiappa, les grands auteurs.
Et oui, amis des belles lettres et de la grande littérature, vous le savez, nos politiques adorent agrémenter leurs débats en citant les grands auteurs.
Mais oui, comme dirait Michel Audiard.
Comme disait Voltaire.
Jaurès. Blum.
Victor Hugo.
Le général de Gaulle.
Louis Aragon.
Leibniz.
Rousseau.
De Marc Bloch.
Bloch. Zadig et Voltaire aussi. Oui, Leibniz. Puis est arrivée Marlène Schiappa cette semaine sur C8.
Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Oui,
oui,
vous avez bien entendu. Pour ceux qui n'étaient pas prêts, on se l'a remet quand même, hein, parce que ça peut surprendre. Hein.
Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Oui,
Oui.
La ministre vient donc de citer Spider-Man, l'homme araignée, pour appuyer son propos dans un débat. Et face à tant d'originalité et de modernité, face à cette audace, la cellule investigation du surf de l'info a tenu à mener l'enquête.
Bien sûr.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors d'abord, c'est très beau. Mais est-ce vraiment de Spider-Man ? Eh bien, après moult recherches, la réponse est non. Oui, la ministre croit citer Spider-Man, mais cette phrase est prononcée par Ben Parker, l'oncle de Spider-Man. Et c'est en lui disant ça que Peter Parker devient Spider-Man. Mais oui, ça va loin. La cellule d'investigation a même retrouvé l'extrait.
Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Oui, et là vous vous dites certainement, mais ce type est payé pour se refaire l'intégralité de Spider-Man tous les après-midi. Eh bien oui, mais pourquoi pas. Hein. Mais que Marlène Schiappa se rassure, c'est une erreur assez classique de la part de nos politiques qui veulent se la jouer jeunes et originaux. François Ruffin, 2018, Assemblée nationale.
Spider-Man, le super-héros énonce cet adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Et même Édouard Philippe avant lui.
Depuis Spider-Man, on sait que... avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Oh,
mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Spider-Man ? C'est dingue, hein. Bon, bah après, à l'heure des charges, il est vrai qu'à un moment, dans un des films, Spider-Man finit par prononcer la phrase de son oncle.
Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Ah bah, il l'a dit.
Ah bah, il l'a dit, mais bon, ça vient pas de lui, ça vient de son oncle. Enfin, de toute façon, sur les citations, on aura du mal à trouver plus fort qu'Édouard Philippe, capable, en plein discours de politique générale, à l'Assemblée nationale, moment ô combien solennel.
Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas, aurait demandé le prix Nobel de littérature de l'année 2017.
Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just...
Oui, Bob Dylan dans un discours de politique générale, ça reste quand même plus improbable que Spider-Man sur C8.
Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir ?
Absolument, avec Thomas Soto, le monde tel qu'il est.
C'est prévu, rendez-vous est pris donc. Louis Baudin, notre météo.
Oh bah c'est simple, encore beaucoup de nuages sur toute la France, pas trop de pluie ce matin, même si elles reviennent là déjà par le nord, et cet après-midi, bah, ces pluies vont se multiplier sous forme d'averses, averses de pluie, de neige en montagne, ça sur toutes les régions, sauf sur la pointe bretonne. Oui, en Bretagne, on conservera un temps plutôt ensoleillé et sans pluie. Et puis près de la Méditerranée, là aussi, on aura plutôt du soleil, mais avec du mistral et de la tramontane. Les températures, ben, ça continue à dégringoler. On a aussi du froid pour la fin de semaine. On y est. 7 à 9 degrés, pas plus dans la moitié nord, jusqu'à 11 en Bretagne ou encore dans la moitié sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où on aura encore 12 à 14 degrés.
Louis Baudin, RTL, il est 8h. À 8h sur RTL, le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves. Bonjour à tous.
À la une, l'impression d'un éternel recommencement.
Un an après le premier confinement, de nouvelles restrictions attendues aujourd'hui en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Un employeur peut-il priver ses salariés en télétravail de tickets resto ? Oui, vient de répondre un tribunal. Et puis on va pouvoir bientôt à nouveau voyager en Europe, mais aussi dans le monde. On vous dira tout avec la brigade RTL.
RTL Matin.
Mais d'abord, si je vous dis qu'on est en 2021, je ne vous surprendrai pas.
Non.
Si je vous dis qu'on est en France, je ne vous surprendrai pas non plus. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, dans notre pays, une femme peut être condamnée pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari, là vous tomberez peut-être de l'armoire ou du lit. C'est pourtant ce qui est arrivé, Thomas Proutot, racontez-nous.
Eh bien, c'est d'abord cette femme qui assigne en 2015 son mari en divorce pour faute. Après 30 ans de vie commune et 4 enfants, elle se dit épuisée par des violences verbales et physiques. Le mari contre-attaque, conteste les violences, se dit harcelée et assigne à son tour, mais lui pour refus de relations sexuelles, et cela depuis 10 ans. Devant la justice, l'épouse doit s'expliquer. Elle évoque une santé dégradée ainsi que l'énergie immense consacrée à leur fille cadette, handicapée. Le tribunal écarte d'abord la faute, mais en 2018, la cour d'appel de Versailles la retient et juge que le refus de relation constitue une violation des obligations du mariage. C'est cette décision que la Cour de cassation a validée en septembre dernier au nom d'une jurisprudence constante en droit français tirée des obligations de fidélité et de cohabitation inscrites dans le Code civil. En 2011, c'est d'ailleurs un homme qui écopait d'un divorce assez tors exclusif pour manque de galipettes. Les avocates de l'épouse dénoncent une décision moyenâgeuse, une interprétation abusive du Code civil. Selon elles, le mariage n'est pas une servitude sexuelle. Elles demandent à la Cour européenne des droits de l'homme de condamner la France.
Thomas Proutot.
Le printemps arrive, le reconfinement aussi.
Pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, 18 millions de Français supplémentaires bientôt sous cloche. Reste une inconnue, l'ampleur de ce reconfinement. 7 jours sur 7 ou seulement le week-end. On attend les précisions ce soir à 18h de Jean Castex. La fatigue, en tout cas, gagne les esprits et les cœurs. Spencer est soignant à l'hôpital de Saint-Denis, près de Paris.
Ça fait un an qu'on est dedans. Combien de lits ils ont été ouverts de réa? Donc la chose, on l'a vu arriver, on a prévenu. Là, on m'incrimine parce que y a un taux de vaccination qui n'est pas suffisant dans les hôpitaux pour les soignants. Passer des héros à zéro, bah ouais, j'ai les boules. Et là, c'est que le côté soignant. C'est pas le côté parent, c'est pas le côté citoyen, c'est juste le côté soignant. Ça fait un an qu'on mange, ça fait un an que c'est compliqué, le moral il est au plus bas. On peut pas aller au sport, on peut pas aller au cinoche, on peut pas aller sur les quais, on peut plus rien faire. En plus, moi, je bosse de nuit, donc je suis encore plus. Ouais, pas de bol, hein.
Un propos recueilli par Vincent Serrano. Ça va taper dur jusqu'à mi-avril. Voilà ce qu'a confié Emmanuel Macron aux élus d'Île-de-France. Hier, plus de 38 000 nouvelles contaminations enregistrées dans notre pays. C'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le mois de novembre. Le gouvernement comptait sur les évacuations de patients pour soulager les réas en région parisienne. On a vu que c'était un échec. Beaucoup de familles refusent. D'où cet appel d'un ancien malade, Serge. Il a 56 ans. Il est l'un des tout premiers patients Covid à avoir été transféré l'an dernier de Strasbourg à Nantes, et il explique que ça lui a sauvé la vie.
Je suis parti dans ce premier train médicalisé qu'ils ont fait en France. C'était il y a un an. Moi, j'étais une semaine dans le coma à Strasbourg. Je me suis réveillé à Nantes. Là, je vous garantis que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Sachant que vous êtes à 900 km de votre femme, de vos enfants, de vos proches, et que vous étiez quand même 3 semaines dans le coma et que vous n'étiez pas au courant. A beaucoup de chance. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, chez nous à Strasbourg, il n'y avait plus de place, manque du lit. Manque du personnel aussi. Je suis pas sûr, si j'avais été resté à Strasbourg, si je serais peut-être encore parmi ce monde. Chez nous, à Strasbourg, on n'avait plus de lit, hein. On n'avait plus de place. Hein. Moi, je peux pas comprendre. Si à Paris, actuellement, dans l'île de France, il n'y a plus de place ou il n'y a plus de lit, il faut que les gens y partent. Hein. Ils ont la chance de pouvoir partir, qu'ils le fassent surtout. Enfin, il faut qu'ils le fassent.
Serge Règue au micro de Yannick Holland. Il a d'ailleurs écrit un livre, « Mon voyage au bout du Covid-19 », où il raconte son expérience et remercie les soignants. Deux rendez-vous donc à suivre aujourd'hui, la conférence de presse de Jean Castex à 18h. Et puis, cet autre rendez-vous, l'annonce de l'Agence européenne des médicaments qui devrait, sauf surprise, confirmer la sûreté du vaccin AstraZeneca et ainsi permettre de relancer la campagne en France.
Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, hein. On en parlait hier, on va pouvoir voyager cet été, au moins en Europe.
Allez, en Suède ou en Espagne par exemple, ce sera possible sans quarantaine ou test à l'arrivée grâce au certificat vert annoncé hier par la Commission de Bruxelles. Ce sera le même pour tout le monde, il dira si vous avez été vacciné, si vous avez été testé avant de partir ou si vous avez déjà été malade. Mais ce ne sera pas le seul sésame, on voit ça avec la brigade RTL. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
il y a d'autres initiatives pour relancer les voyages en Europe et dans le monde.
Ah oui, d'abord regardez ce corridor touristique entre l'Allemagne et les Baléares. C'est un programme pilote imaginé par les tour opérateurs allemands et les groupes hôteliers espagnols pour envoyer des touristes allemands sur les plages de Majorque. Et pendant ce temps-là, on rappelle que les Espagnols, eux, n'ont pas le droit de sortir de leur province. Les Baléares, ce n'est que pour les Allemands. D'ailleurs, hier, Angela Merkel a supplié ses compatriotes de ne pas s'y rendre, trop de contamination.
Israël aussi veut profiter du fait que sa population est presque entièrement vaccinée.
Alors, les Israéliens vaccinés peuvent aller en Grèce et à Chypre grâce à un passeport vaccinal. Protocole signé entre Athènes et Tel Aviv, plus besoin de quarantaine ou de tests. La Grèce qui rêve aussi d'accueillir sur ses plages sans restriction les Britanniques. C'est en réflexion. Et puis en Islande, 130 personnes vaccinées ont déjà reçu le sésame, le passeport via un site internet public pour voyager selon leur gré. L'Islande qui reçoit aussi tout voyageur vacciné et qui désire attirer surtout les Britanniques et les Américains.
Dernière précision et pas des moindres, Bénédicte, les compagnies aériennes s'y mettent.
Plusieurs d'entre elles testent le passeport numérique pour prouver votre état de santé avant d'embarquer. Singapore Airlines, American Airlines, des applis sur votre smartphone avec le résultat des examens exigés, transmis par des labos sous la forme d'un QR code, lisible dans tous les aéroports, avec aussi des traductions. Enfin, depuis plusieurs jours, Air France et Aéroports de Paris expérimentent une application sur les vols vers les Antilles françaises avec bientôt de nouvelles destinations. Ce n'est pas obligatoire, mais ceux qui la téléchargent voyagent plus facilement.
Les précisions de la brigade RTL. Merci Bénédicte Tassard.
Dans un instant, ce couple d'entrepreneurs dont l'activité est à l'arrêt à cause de l'épidémie, ils vivent grâce aux aides de leurs enfants.
C'est quand vous avez votre gosse qui vous dit « Tu veux que je te vire combien ?» Ça, c'est atroce quand du haut de ses 18 ans, elle vous propose ça.
A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Comme des milliers d'entrepreneurs, ce couple de Nantais espère un retour rapide de son activité.
Il exploite des jeux de laser en salle et tout ce qui est en intérieur est fermé en ce moment. Les aides de l'État ne suffisent plus. Macha et son mari vendent leur maison et leurs enfants sont appelés à la rescousse. Patrice Gabart.
Après bientôt 6 mois de fermeture et avec 25 000 euros de loyer pour chacun de leurs deux établissements de loisirs indoor à Saint-Sébastien-sur-Loire et Saint-Herblain, Jean-Marie et Macha Gelais sont aujourd'hui au bord du gouffre.
Tous les mois, nous perdons 30 000 euros malgré les aides de l'État. Là aujourd'hui, nous en sommes donc à ne pas pouvoir payer nos loyers et nous ne pas pouvoir avoir de salaire. Malgré tout, les charges sont là et on les paye tous les mois. Donc on vend nos affaires, on vend nos meubles et maintenant on vend notre maison.
Une vente qui sera effective dans 2 mois pour garder l'outil de travail sans se lancé dans de nouveaux emprunts que le couple ne serait plus en mesure de rembourser. Pour ne rien arranger, l'aide de 10 000 euros n'arrive plus depuis janvier et Macha a beaucoup de mal à retenir ses larmes lorsqu'elle parle du soutien de ses enfants.
Les trois ont trouvé des petits jobs pour faire face, pour subvenir aux besoins de papa-maman. C'est désespérant et c'est très 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 gênant. Réellement très gênant. C'est quand vous avez votre gosse qui vous dit « Tu veux que je te vire combien ?» Ça, c'est atroce quand du haut de ses 18 ans, elle vous propose ça. Le mot est peut-être trop fort, mais j'ai honte face à mes enfants. Moi, j'ai 56 ans et tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est ça.
Chef d'entreprise depuis 30 ans, Macha demande juste le droit de retravailler.
Patrice Gabart. Et pour ceux qui travaillent à la maison, cette décision du tribunal de Nanterre, elle vient de donner raison à un employeur qui refusait de verser des tickets restaurants à ses salariés en télétravail. Bonjour Martial Youn.
Bonjour.
Alors le gouvernement encourage justement les gens à télétravailler. Est-ce que cette décision peut faire jurisprudence?
Oui, elle peut, même si la décision va certainement faire l'objet d'un appel. En fait, rien n'oblige dans le code du travail un employeur à prendre en charge le repas de ses salariés. Simplement, une entreprise qui versait des tickets restaurant à ses employés avant le Covid n'était pas censée les retirer à ceux qui sont obligés de télétravailler à la demande de leur employeur, ce qui est le cas de la plupart des salariés qui restent chez eux actuellement. Les avocats, en fait, se sont appuyés sur une partie de l'accord national interprofessionnel de 2005 concernant le télétravail qui dit que les salariés doivent avoir les mêmes droits si leur situation de travail est comparable. Et le tribunal a jugé qu'on ne pouvait pas comparer la situation de quelqu'un qui ne prend pas les transports pendant plusieurs jours par semaine pour venir travailler et celui qui vient au bureau. Alors les tickets restaurants existent, on le sait, pour prendre en charge le surcoût que représente un déjeuner pris en dehors du domicile, ça peut se comprendre cette décision, donc, mais on sait aussi que ces titres restaurants servent de coup de pouce en termes de pouvoir d'achat, notamment pour les petits salaires. Qui plus est, le télétravail occasionne bien souvent des frais supplémentaires, nourriture, chauffage, électricité. La CFE-CGC avait calculé que ça représentait 100 à 120 euros de surcoût par mois. Les tickets resto compensaient une partie de cette somme. Il y a aussi un forfait URSSAF hein, qui existe. Mais sur le fond, ça impose surtout de trouver maintenant un vrai statut aux télétravailleurs.
Merci beaucoup pour ces précisions, Martial You. À retenir également dans l'actualité de ce jeudi, cette fusillade qui a fait un mort et un blessé grave hier soir à Montargis, dans le Loiret. Il s'agirait d'un règlement de compte dans une affaire de trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin veut sécuriser les lieux de culte à l'approche des fêtes qui arrivent et du Ramadan hein, qui approche. Il demande au préfet de renforcer la surveillance autour des églises, des temples et des mosquées et de porter, je cite, une attention particulière aux véhicules stationnés à proximité.
8h12, le football. Le Paris Saint-Germain poursuit sa route en Coupe de France.
Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale face au leader du championnat, Lille. 3-0 en Ligue des Champions. Le casting est désormais complet. Qualification hier soir pour les quarts de Chelsea et du Bayern. À suivre aujourd'hui, Didier Deschamps qui dévoilera la liste des bleus retenus pour le début des qualifications du Mondial 2022. Ça commence le 24 mars contre l'Ukraine.
On termine avec l'histoire du jour.
Certains ne plaisantent pas avec le couvre-feu. Écoutez cet habitant de Brest qui, passé 18h, sort son haut-parleur.
Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous pouvez être puni d'une amende de 135 euros. En cas de récidive, le montant de l'amende est majoré et la sanction peut aller jusqu'à une peine de prison. Rentrez chez vous.
C'est pas de l'humour.
C'est de l'information.
C'est une vidéo captée par un internaute donc à Brest, dans une rue pourtant déserte, comme quoi le message de ce voisin très scrupuleux a été entendu.
Un policier sommeille chez chaque Français, voire parfois un dénonciateur. Enfin bon, on va pas refaire notre histoire. C'était le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, Jean-Mathieu Pernin va démentir une fake news au sujet de la vaccination des enfants. Et nous retrouvons aussi Michel.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
On ne va pas se priver d'une bonne intox, hein, de fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin.
Bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, non, la vaccination pour les enfants n'est pas imminente.
Et non, c'est le nouvel effroi hein, des antipiqûres contre le Covid, la vaccination des plus jeunes. Ne laissons pas mourir nos enfants. Entre la piqûre et le bras de mon enfant, il y aura moi. Maintenant, il s'attaque aux plus faibles, direction très proportionné, on le voit, face à l'annonce de la société de biotechnologie américaine Moderna, qui a annoncé hier commencer des essais de son vaccin contre le Covid-19 sur des milliers d'enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Alors cet essai clinique concerne un total prévu de 6750 enfants aux États-Unis et au Canada. Nous n'en sommes qu'à l'essai clinique chez Moderna. À ce jour, les vaccins contre le Covid n'ont pas reçu d'autorisation par l'Agence européenne du médicament pour les enfants de moins de 16 ans. Et si les principaux fournisseurs de vaccins travaillent sur les effets concernant les enfants et même les adolescents, c'est pour être prêt au cas où le feu vert est donné. Une démarche clinique ne donne pas une autorisation de vaccination automatique. Pour les adolescents, on évoque des premiers résultats de ces essais pour le début de l'été.
Bon, alors la vaccination contre le Covid pour les enfants fait aussi débat.
Bah oui, bien sûr, puisque doit-on ou non vacciner tout le monde, y compris les enfants, afin de mettre à bas l'épidémie? C'est une question hein, qui ajoute les blouses blanches. D'un côté, il y a des pédiatres, dont le professeur Robert Cohen de l'hôpital intercommunal de Créteil. Si on ne vaccine pas, dit-il, il va y avoir des poches de population non vaccinée dans lesquels ce virus va pouvoir continuer à circuler et réinfecter des adultes, explique-t-il à l'AFP. De l'autre, l'infectiologue de l'hôpital Cochin, Odile Launay, qui explique au magazine L'Express, contrairement à la grippe, les enfants ne sont pas le réservoir de cette infection virale. Ce sont plutôt les adultes qui se transmettent aux enfants que l'inverse. Deux avis de spécialistes qui résument bien le débat actuel. On parle bien de débat, puisque pour l'instant, la vaccination des enfants contre le Covid n'est pas d'actualité, mais autant prendre les devants.
Alors rappelons par ailleurs que concernant les essais sur les enfants, il y a des règles.
Eh bien oui, bien sûr, le consentement est aussi nécessaire. C'est pas parce que c'est un enfant qu'on peut lui dire « Allez, un petit test sur le vaccin et tu auras une après-midi au parc Astérix hein. ». Le code de santé publique précise que pour les essais cliniques chez l'enfant, il ne peut, je cite, « être passé outre au refus ou à la révocation du consentement ». Il faut donc expliquer, comme avec un adulte, on parle de vacciner les enfants en 2022. Par temps de Covid, ça paraît presque à l'autre siècle.
Je vais vous emmener au jardin d'acclimatation. On fera la rivière enchantée hein, si vous faites vacciner.
Bien sûr.
Allez, dans un instant, on a rendez-vous avec Michel Cibès.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cibès.
Bonjour cher Michel.
Bonjour Yves.
Alors ce matin, vous vous proposez de faire l'éloge de la mastication, expliquez-nous.
Oui, je vous dis régulièrement qu'il faut soigner sa mastication pour mieux digérer, je le répète aujourd'hui. Lorsqu'ils sont finement broyés, les aliments stationnent moins longtemps dans l'estomac, dont le boulot, c'est le cas de le dire, est mâché. Par ailleurs, la digestion n'est pas qu'une affaire d'estomac, mais aussi à contribution le cerveau. Je m'explique. Si vous prenez le temps de bien mastiquer, vous laissez suffisamment de temps au cerveau pour qu'il analyse ce que vous allez avaler, à commencer par la consistance de l'aliment. et en informe le tube digestif. Ça, c'est le béaba. Parce que la mastication présente plein d'autres avantages pour vos dents, pour votre poids et même pour la croissance des os de la face des enfants.
Ah oui, par quel mécanisme ?
Ben, la mastication a ceci de particulier qu'elle fait travailler les dents, la langue et les joues dans la plus parfaite des harmonies. Résultat, ça stimule les os et ça les aide à grandir comme il faut. Et à ce propos, l'enjeu n'est pas négligeable quand on sait que 40% des 6-12 ans présente des anomalies de la croissance faciale et de l'implantation des dents.
Ah oui.
Un coup, c'est le maxillaire qui est trop étroit. Un coup, c'est la mâchoire qui est trop en arrière. Un coup, ce sont les dents qui sont trop en avant. On a le choix. Mm-hmm. Voilà pourquoi il convient de sensibiliser les petits à l'importance de la mastication. S'ils adoptent les bons comportements dès le plus jeune âge, ça leur servira toute la vie.
J'en déduis qu'une bonne mastication est aussi un atout santé quand on est un adulte. Hein ?
Oui, elle vous aide à maintenir votre poids de forme. Là encore, ça mérite une explication. Plus on mastique, plus on prend son temps. Plus on prend son temps, plus on reste à table. Mmh. Et plus on reste à table, plus on laisse le temps nécessaire au cerveau pour, encore une fois, qu'il analyse la situation et ensuite informe l'organisme qu'il est rassasié. Pour ça, le cerveau a besoin d'au moins 20 minutes.
Oui.
C'est pour ça que quand vous mangez vite, vous avez tendance à vous resservir, alors que quand vous prenez le temps, vous ne repassez pas les plats.
J'imagine que plus on mastique, plus on utilise la salive. En quoi la salive joue-t-elle un rôle utile pour notre santé ?
Alors, trois choses. D'abord, la salive contient de l'amylase. L'amylase est une enzyme utile pour digérer les sucres lents. Plus il y en a, mieux les patates sont préparées à être accueillies par l'estomac. Ensuite, et ça, on a tendance à l'oublier, la mastication s'apparente à un auto-brossage des dents. La salive contribue à éliminer la plaque dentaire et à protéger l'émail. Si vous mastiquez longtemps, le brossage dure plus longtemps. Enfin, vous serez d'autant plus enclin à mastiquer si vous consommez des aliments solides. Le piège, c'est de manger trop mou, ce qui, hélas, est une mode qui a tendance à perdurer.
Le meilleur exemple, ça ne serait pas le pain de mie par hasard ?
Si, oui. Et ça demande une mastication sommaire. Hein. Ça colle aux dents, donc ça favorise la formation de tartre et ça donne à l'arrivée des dents mal implantées dans la gencive.
Merci beaucoup Michel et à demain.
À demain.
Dans un instant, Carl Olive, le maire d'Hiverdroite de Poissiers, notre ami.
Yves Calvi, RTL Matin.
8h22, bonjour Carl Olive.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes le maire de Hiverdroite de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ce d'autant plus que c'est vous qui avez accueilli le président hier lors de sa visite au centre hospitalier de votre ville. J'ai une première question à vous poser parce que les images télévisées pouvaient paraître étranges. On a l'impression parfois que le président s'adresse à des infirmières qui lui tournent le dos.
Absolument pas. Si vous faites un plan large, comme on le dit, entre guillemets, techniquement, on voit que le président discute sur un 360 degrés en service de réanimation médicale. Et je peux même vous dire que les infirmières en question ont même pris sur leur temps de repos pour venir échanger avec le président de la République.
Donc cette perception de bras croisés, il ne boudait pas, disons les choses
absolument
simplement.
Absolument pas. Alors c'est vrai qu'on dit une image mille mots.
Oui.
Là, en l'occurrence, c'est totalement erroné.
Que vous a dit le président ? Soyons directs et simples.
D'abord, je lui ai dit, président, arrêtez de défier les élus. J'ai entendu la semaine dernière qu'il y avait une vraie défiance de la part du président Macron envers les élus. Je lui ai dit, ça devrait être plutôt l'inverse.
Oui.
Il me dit, c'est absolument pas ça. Et je lui ai dit, si c'est pas ça, venez nous voir. On fait une délégation d'élus, mais sans filtre.
Mm-hmm.
Et c'est ce qu'il a fait. Et quand je dis sans filtre, alors on n'est pas dans la cuisine des tontons flingueurs, ni au palais de l'Élysée, mais enfin, on a pu avoir une vraie discussion sans filtre, et ça a été le cas. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une difficulté, évidemment, et c'est pas une science, ça se serait, Yves Calvi. En revanche, on parle de mesures de freinage en semaine. Mesures de freinage en semaine, que peut-on attendre ? D'abord, c'est une prise en considération de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une détresse sanitaire, on le comprend bien, mais on a aussi une détresse sociale, une détresse psychologique et une détresse psychiatrique de la part des Français. Les Français s'en retirent. Donc il faut entendre cela.
Mesures de freinage en semaine, ça veut dire quoi d'après vous ?
Moi, je pense qu'il va élargir encore un peu plus et contraindre le télétravail.
D'accord.
Beaucoup plus de télétravail, ça a commencé. Je vois typiquement dans ma ville, à Poissy, PSA, c'est quasiment 70% de télétravail.
Mais ça veut dire que, selon lui, les entreprises ne jouent pas assez le jeu ?
Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement qu'on peut améliorer effectivement le télétravail.
D'accord.
Et quand on parle de mesures de freinage. Mesures de freinage, ça peut aussi vouloir dire interdire les déplacements inter-régions et parfois interdépartementaux.
Interdépartemental.
Excusez-moi,
des Yvelines aux Hauts-de-Seine, par exemple ?
Pourquoi pas.
Ça vous concerne directement ?
Ou
du Val-de-Marne vers la Seine-Saint-Denis ?
Alors, ça sera peut-être pas le cas dans les prochains jours. En tout cas, ça fait partie de la petite chanson que les élus ont pu lui faire remonter.
Ce qui ressemblerait, pardonnez-moi, je vous interromps, quand même à des limitations de circulation à un moment ou à un autre et en fonction de la situation. Je vous ai bien compris.
Oui, très clairement. et en même temps tenir compte de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire qu'on est dans une région francilienne qui représente 20% de la population. J'entendais ce matin sur votre antenne 30% de la richesse nationale. Et que l'économie passe aussi par l'Île-de-France avec sa spécificité. J'insiste aussi, Yves Calvi, sur la détresse sociale, psychologique et psychiatrique, les difficultés interfamiliales qu'on peut rencontrer dans nos quartiers et souvent dans nos quartiers populaires. J'entendais le maire de Seine-Saint-Denis qui l'expliquait très bien ce matin, oui. Le maire de Saint-Denis sur votre antenne. Et puis le week-end des restrictions. Le week-end des restrictions et les restrictions qui passeront certainement par beaucoup plus, je dirais, de contrôle sur typiquement les respects des gestes barrières. Mais et là encore, ça a été vraiment de façon insistée par les maires, le fait de conserver tout de même la possibilité de faire ses courses, la possibilité de s'oxygéner au grand air.
Oui.
Et ça a été aussi rappelé par les infectiologues, par le directeur de la réanimation médicale de l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Ce qu'on constate, Yves Calvi, c'est que dans les Yvelines, il y a moins d'incidence que sur l'ensemble de l'Île-de-France.
Oui.
À quoi c'est dû ? D'abord, une campagne massifiée. Typiquement, les 3000 agents du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, 50% se sont fait vacciner. À Poissy, on oblige le port du masque obligatoire depuis le 1er janvier. Dans le département des Yvelines, le préfet Jean-Jacques Brault a pris une décision radicale. Depuis 3 semaines, le port du masque obligatoire sur l'ensemble du champ public. Alors évidemment, ce n'est pas ça plus ça, mais on peut imaginer que ces faisceaux entraîne un peu plus de discipline et donc de résultats à la clé.
Papa, vous nous dites qu'on est mauvais dans les autres départements, parce que moi je vais vous rappeler que vous avez la chance d'avoir un département qui est très vert, ce qui est déjà quelque chose de merveilleux.
Je ne dis absolument pas ça. Je dis simplement, et vous le savez comme moi, que si c'était une science que de dire il faut respecter un confinement le samedi ou de façon exhaustive la semaine, ça serait. Il suffit de sortir ici sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly ou sur les Champs-Élysées, y compris après 18h, il y a encore du monde, et pourtant on va pas mettre un flic derrière chaque Français. Donc il faut aussi s'autodiscipliner par rapport à ça. Et puis derrière, il y a un deuxième paramètre. C'est le paramètre de la massification de la vaccination.
Oui.
Comme dit le Président, et on l'a rejoint sur ce fait, c'est la science qui parle et c'est donc les spécialistes médicaux qui parlent, c'est que ça va taper dur jusqu'au 15 avril. Quand on dit ça va taper dur, c'est que l'épidémie va être compliquée jusqu'au 15 avril. Le président dit ensuite qu'il a une vision, et pour le coup, on a un cap qui est donné sur une massification des vaccinations. Je vous annonce aujourd'hui que le président est convaincu que dès demain, reprise d'AstraZeneca au niveau des professionnels de santé, mais rajoutée également avec du Pfizer, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Reprise d'AstraZeneca dans les centres de vaccination communaux, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui.
Non.
Reprise d'AstraZeneca dans les officines, dans les pharmacies.
Donc reprise et généralisation de la vaccination AstraZeneca.
Exactement. L'idée, c'est aussi de reprendre confiance. Et là, c'est intéressant parce qu'on était quand même dans la défiance et c'est le sentiment que nous avions. Et reprendre confiance, ça passe aussi par de la territorialisation qui est demandée. Le maire de Plomeur, par exemple, en Bretagne, prend un exemple qui est formidable. Il nous explique que, et moi j'en profite pour dire que ce serait bien de donner un coup de pied dans la fourmilière de technostructures, qui nous explique qu'il a 6 plages différentes à Plomeur,
oui.
Que c'est 6 dossiers administratifs, avec une étude d'impact à chaque fois sur la faune et la flore, et que c'est 10 allers-retours avec la préfecture. Non mais il faut arrêter, excusez-moi.
Vous arrivez à être drôle avec une situation qui ne l'est pas. Excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. L'avez-vous interrogé sur le fait qu'il ait suivi les Allemands dans cette soustraction de l'AstraZeneca, dont on a l'impression depuis le début qu'il allait de toute façon nous le recoller ensuite, ce qui est bien entendu est totalement nécessaire. Était-il obligé de suivre sur le plan européen ?
D'abord, il faut...
Parce que je pense que ça va contre sa nature, si vous voulez mon avis.
Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on est, encore une fois de plus, dans une cacophonie à la fois politique de gauche comme de droite, hein, il n'y a pas de monopole du concours Lépine de la connerie sur le sujet. On est aussi dans une cacophonie des sachants. Vous écoutez un sachant, oui, sur un plateau, vous écoutez sur un autre plateau, vous savez plus ce qu'il vous dit, on sait plus rien. Oui, principe de précaution, nous a-t-il dit, principe par défaut, et si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce qu'on aurait entendu dire ? Que l'ensemble des pays circonvoisins avaient pris la décision d'arrêter et que nous, on était les derniers petits larrons. En l'occurrence, ça va être décidé de poursuivre. Et je pense qu'il ne faut pas faire trop de cas sur la vaccination. d'AstraZeneca. En revanche, il faut convaincre les Français et donc faire confiance. Et faire confiance, ça, c'est pas une science. Hein.
Non, comment on fait ?
Eh ben, on fait confiance à celles et ceux qui sont en prise directe avec la réalité du quotidien, M. Calvi.
C'est vous ?
C'est-à-dire les maires qui sont des fantassins de la République, de gauche comme de droite, et les préfets. Si on peut juste faire en sorte de faire confiance à celles et ceux qui sont en prise directe avec la réalité du quotidien et être jugé sur les résultats et certainement pas sur la manière parfois d'y obtenir, dans ce pays, ça va aller plus vite et ça va être plus efficace.
Le président de la République est-il inquiet aujourd'hui de l'acceptabilité de ces mesures, un dans l'absolu, du retour à la vaccination qui ne va pas être facile ?
Alors le retour de la vaccination ne va pas être facile, mais si on peut d'ores et déjà généraliser la vaccination pour les professionnels de santé, si on peut généraliser la vaccination sur les professionnels de l'éducation nationale avec nos enfants, ça nécessite effectivement de la pédagogie. Oui. Et si on peut avoir simplement une communication qui sort d'un robinet et qu'on n'ait pas des jets multiples, c'est pas plus mal non plus. Ce qui va aussi être important, c'est qu'il faut que nous ayons des caps. Et alors, je peux vous annoncer ce matin un certain nombre de graduations qui a été annoncé par le président. Oui. Je sais que vous recevez quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est Maxime Le Forestier, dans quelques instants, sur la graduation de l'ouverture des musées d'abord, oui, des terrasses, des salles de spectacle, des restaurants, des bars et des boîtes de nuit ensuite. Et le président est prêt à rouvrir assez rapidement dans des zones, c'est pour ça que c'est important la territorialisation, dans des zones où l'incidence est inférieure à la moyenne nationale. On peut imaginer que sur la façade atlantique, il y ait des tests qui soient faits, par exemple. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la première fois qu'on entend ce type de concrétisation.
C'est une preuve d'intelligence ou d'adaptation, parce que l'égalité est un projet sur le fronton de toutes nos écoles, on est bien d'accord, mais en même temps, en ce moment, nous ne sommes pas égaux face à la façon dont se répand le virus sur le pays. Je comprends que les Bretons soient furieux, même si on a un variant breton maintenant.
Mais ils ont, y a bien des raisons d'être furieux, que ce soit à Concarneau ou SPZ dans le Finistère. Je pense qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi, ça me fait plaisir qu'on vienne voir encore une fois les élus de terrain. On n'a plus l'ambition, M. Calvi, c'est que la France gagne et que la campagne de vaccination soit faite.
Vous êtes porteur de beaucoup d'informations ce matin. Est-ce qu'il a évoqué des dates ?
Ben oui, parce que je pense que ce week-end, d'abord, c'est tonton Premier ministre qui va annoncer les nouvelles ce soir, monsieur Castex, avec monsieur Véran à 18h, avec une mise en application vraisemblablement dès le week-end. On parlait tout à l'heure de l'interdiction entre départements de circuler ou entre régions. Monsieur Calvi, vous ne pourrez pas aller en Normandie ce week-end, parce que vraisemblablement, ce sera interdit. Et puis ensuite, lever le pied à partir du 15 mai, la deuxième quinzaine de mai, dit le président. Ça devrait aller beaucoup mieux. Voyez-vous, la conjonction entre le fait d'être vacciné et puis les immuno-Covid entraînera de l'immunité collective qui fait qu'on trouvera peut-être une meilleure manière de vivre avec cette épidémie.
Donc on passe à autre chose. On va dire que la perspective de la mi-avril qui avait été évoquée par le porte-parole du gouvernement est aujourd'hui bousculée. C'est on va plus vite nécessaire.
Alors on va aller
et
plus
le président
vite.
L'a compris.
Oui, je pense que le président l'a compris. Puis s'il ne l'a pas compris, je pense que depuis hier, au sortir de ses visites, il l'a bien compris. Parce qu'encore une fois, c'était sans filtre, la relation qu'on a pu avoir avec lui. Enfin, en face de nous, c'était le président de la République, M. Calvi. Ce n'était pas Dédé la sardine.
Merci beaucoup, Carla Olive, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Vous êtes porteur de beaucoup d'informations. Le retour d'AstraZeneca, qui n'est pas une surprise, mais étendu avec Pfizer. Des mesures de freinage, en semaine, via le télétravail, éventuellement de limitation de la circulation, et puis des restrictions sur notre week-end, donc dès ce week-end. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Dans un instant, Louis Bodin pour la météo à 7 jours.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Steven Bellery. Georges Brassens aurait eu 100 ans cette année. En 1963, un gamin de 14 ans entre dans un magasin de partitions. On lui tend 4 chansons du chanteur moustachu. Sa vie va basculer. Ce gamin s'appelle Maxime Le Forestier. Dans Brassens et moi, il raconte sa passion pour sa musique, leur rencontre, pourquoi il enregistrera l'intégralité de son répertoire. Avec Bernard Lehu, nous recevrons Maxime Le Forestier en direct à 9h dans Laissez-vous tenter.
Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Laissez-vous tenter sur RTL. RTL Matin.
8h36, ce n'est pas Dédé la sardine que j'accueille. Mais Louis Baudin, pour notre météo, et vous nous allez évoquer notamment, météo à 7 jours bien entendu, un possible retour de l'éclaircie pendant le week-end.
Exactement, pour ce week-end, le retour du soleil. Mais avant cela, on l'a dit déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de grisailles. Là j'ai les images satellites qui arrivent avec la levée du jour. C'est gris quasiment partout. Il y a quelques éclaircies comme prévu sur la Bretagne ou encore près de la Méditerranée. Encore quelques nuages en ce moment entre la Côte d'Azur et la Corse. Et ça va être comme ça toute la journée avec quelques averses sous forme de pluie, de neige. Demain, c'est la même chose, avec une nouvelle perturbation qui va circuler du nord vers le sud, apportant des nuages, de la pluie et de la neige, peut-être jusqu'en plaine la nuit prochaine. Parfois, dans le nord-est, l'Alsace, Lorraine, peut-être du côté de la Bourgogne, autour du Massif central, en tout cas à très basse altitude. Ça ne durera pas très longtemps, mais donc voilà, ça donne le ton de la journée, encore très nuageuse.
Il pourrait neiger à Beaune.
Il pourrait neiger à Beaune, peut-être quelques flocons, effectivement, ça ne durera pas,
je ne sais pas si ça va tenir,
mais oui, ça pourrait floconner un petit peu. Et donc ça pour cette journée de vendredi, et puis à partir de samedi, ça y est, on va être derrière cette perturbation, l'anticyclone se réinstalle, et avec lui donc un temps sec, ensoleillé. Alors bon, il y aura peut-être quelques brouillards, quelques nuages le matin, mais dans l'ensemble, temps ensoleillé. Les nuages resteront un peu accrochés sur les Alpes et sur les Pyrénées encore pour cette journée de samedi. Dimanche, même chose, conditions anticycloniques, soleil pour tout le monde, après dissipation de quelques brouillards, peut-être quelques nuages près de la Manche. Et puis les températures en revanche en chute libre ce week-end. Retour des gelées quasiment partout sauf en bord de mer et des températures absolument pas de saison l'après-midi puisqu'on restera bloqué entre 6 et 7, 8 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 10 degrés dans le sud. Et puis ça continue comme ça un peu en début de semaine prochaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces conditions anticycloniques avec encore du froid devraient petit à petit ramener de l'air un peu plus doux. Donc peut-être qu'entre mercredi et jeudi prochain, on aura non seulement le soleil, le temps sec, mais peut-être un peu plus de douceur également.
Une grande variété en fait de climat dans tous les sens du terme.
Oui, c'est typique d'une fin mars et de la période. Mais bon, quand même, là, on va arriver à un peu plus de lumière. Puis comme les jours rallongent, ça sera agréable.
Voilà, le retour de la lumière est annoncé pour le week-end par Louis Baudin. Merci beaucoup, Louis. Je vais vous emmener découvrir quelque chose, un produit qu'on adore, vous et moi, le savon de Marseille.
Oh, bien sûr.
Voilà.
RTL, vous êtes comme ça.
Direction Marseille ce matin, au cœur des quartiers nord, où se trouve l'une des dernières véritables savonneries marseillaises, la savonnerie du Midi. Elle a obtenu récemment le label Entreprise du patrimoine vivant, qui met en valeur des savoir-faire exceptionnels et leur transmission. Nous allons voir aussi que la crise sanitaire n'a pas forcément été un handicap, au contraire. Un produit comme le savon de Marseille revient à la mode depuis quelques années et encore plus actuellement. Étienne Baudu, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Vous vous êtes rendu dans cette usine plus que centenaire.
Ah oui, c'est une vieille dame, née en 1894 et qui a d'ailleurs failli disparaître comme bon nombre de savonneries à Marseille. Il en existait au début du XXe siècle 129, il n'en reste plus que 3 aujourd'hui. Heureusement, en 2013, la savonnerie du Midi est reprise par la famille Fievé. C'est Guillaume, le fils, qui nous reçoit dans cette usine rénovée, mais qui n'a quasiment pas changé depuis les années 50. C'était à Paris à l'époque, mais l'essai a été transformé. Le chiffre d'affaires a presque triplé et de 17 salariés, l'entreprise est passée à 44. Guillaume Fievé explique que le savon de Marseille traditionnel connaît un véritable renouveau. Les consommateurs recherchent aujourd'hui l'authenticité.
Pour nous, le savon de Marseille traditionnel, il doit respecter 3 critères. Un premier critère, c'est le critère géographique, c'est-à-dire que le savon de Marseille doit être fabriqué dans le bassin marseillais, bassin historique, là où est né le savon de Marseille. Le deuxième critère, c'est le procédé de fabrication, procédé marseillais qui dure 7 à 10 jours au chaudron. Et le troisième critère, ce sont les ingrédients, donc des huiles végétales et de la soude, sans parfum, sans colorant. Et c'est ce qui donne son côté hypoallergénique, naturel, extra pur. Pour nous, le savon de Marseille, il est soit vert, soit beige. Le savon vert est fabriqué à partir d'huile d'olive et le savon beige est fabriqué à partir d'huile de palme issue de plantations responsables.
Et le savon beige est plutôt utilisé pour l'entretien de la maison, le vert pour l'hygiène corporelle. Et donc si vous voyez un savon de Marseille jaune, rose ou violet, ce n'est pas un véritable savon de Marseille.
Alors maintenant, Étienne, vous nous faites découvrir le fameux procédé marseillais de fabrication du savon dit de Marseille au chaudron. Peut-on parler de potion magique ?
Mais on n'en est pas loin, car il y a un véritable secret de fabrication transmis de maître savonnier en maître savonnier. Et Franck Chauvet, 34 ans d'expérience, s'en souvient encore.
La transmission n'a pas été facile parce que c'était un peu des cachotiers, ils ne voulaient pas tout dire. Alors donc, il fallait observer, être attentif et deviner les choses. Les choses que maintenant j'ai transmises, moi, sans cachoterie. Voilà.
Alors comme le lait sur le feu, Franck veille avec Wilfried, son apprenti, sur la salle des chaudrons, tout comme une statue de la bonne mère qui trône dans un coin de la salle. 5 immenses chaudrons dans lesquels bouillonne un liquide visqueux, verdâtre et à l'odeur entêtante. 5 étapes de fabrication, l'empâtage, le relargage, la cuisson, le lavage et la liquidation. Chaque étape dure plus ou moins une journée. C'est le coup d'œil du maître savonnier qui est le juge. Mais nous explique Wilfried, il faut aussi avoir du goût.
J'ai un retable, on appelle ça un retable. Donc on trempe ce retable dans le savon pour récupérer de la matière. Ensuite on la laisse sécher sur le bout du doigt, qu'on vient poser ensuite sur le bout de la langue et goûter le mélange pour voir s'il n'y a pas trop de soude ou trop de sel à l'intérieur. C'est au goût qu'on le sent. Là, il est très bien.
Alors une fois séché sous forme de granules, le savon est reconditionné sur les lignes de fabrication en savonnette, en cubes, les fameux cubes de 300 ou 500 grammes, tamponnés aux armes de la savonnerie. Une corvette, en l'occurrence, le navire à voile. Autre produit devenu phare, les copeaux de savon pour faire soi-même sa lessive.
Étienne, on l'évoquait, la crise sanitaire n'a pas été forcément une mauvaise période pour la savonnerie. Hein.
Non, même si évidemment les marchés à l'export ont souffert l'an passé, comme vers l'Asie par exemple, et même si l'absence de touristes a été un réel frein. Mais c'est vrai, selon Guillaume Fievé, les ventes du savon ont été au final boostées par les recommandations gouvernementales.
Effectivement, les recommandations gouvernementales de se laver plusieurs fois les mains dans la journée ont mis en avant à la fois ce besoin d'hygiène et cette reconnaissance sur les vertus du savon de Marseille.
Et puis le véritable savon de Marseille était en réalité en parfaite adéquation avec l'air du temps.
Il y a une remise en valeur du fabriqué local. Hein. C'est même plus que le Made in France, hein. C'est vraiment le fabriqué local. Et la crise sanitaire a contribué effectivement à mettre en valeur cette nécessité d'être approvisionné avec ces produits-là.
Voilà, et on peut également visiter un intéressant musée pour découvrir l'histoire du savon de Marseille. Enfin, malheureusement pas pour l'instant, car là aussi, il faudra attendre la fin de la crise sanitaire.
Le savon de Marseille n'a jamais été aussi utile. Merci beaucoup Étienne Baudu, notre correspondant à Marseille.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Ce matin, Isabelle Choquet, nous parlons d'une star des mathématiques, le fameux nombre pi et ses adeptes.
Pi qui permet de calculer la surface ou la circonférence des cercles, le cauchemar des cancres en géométrie, oui. Mais un nombre fascinant pour les matheux du monde entier, à tel point que certains insensés se sont lancés un défi, mémoriser un maximum de décimales. C'est le site Slate qui en a parlé ces derniers jours à l'occasion du Pi Day, c'était dimanche, 14 mars. Pourquoi 14 mars? Parce que pi égale 3/14, 3e mois, 14e jour. Quand je dis pi égale 3/14, c'est un peu court parce qu'en fait, le nombre de décimales est infini. Oui. Pi est un nombre qui donne le vertige. À ce jour, on connaît, tenez-vous bien, 31 400 milliards de décimales. C'est une ingénieure de Google qui a battu le record grâce à 25 machines qui ont tourné non-stop pendant 121 jours. Le résultat final occupe 170 téraoctets de mémoire. Pour vous donner une idée, c'est l'espace nécessaire dans un disque dur pour héberger 34 millions de chansons, un peu plus que votre playlist. Donc, ces décimales, si on les imprimait, ça remplirait un espace équivalent à 100 millions de livres de poche. Et si on voulait les mémoriser, si notre cerveau en était capable, à raison d'un nouveau chiffre par seconde, cela nous prendrait...
1 million d'années,
oui, et pas toujours en été.
Non.
Bon, donc c'est clair.
Même en 100 ans, je n'aurais pas le temps.
C'est sûr, ça va être un peu juste. Mais certains tentent quand même de repousser les limites. Le record actuel est détenu depuis 2015 par un Indien, Suresh Kumar Sharma. Il a réussi à réciter 70 030 décimales du nombre pi en 17 heures, je vous promets, en 17 heures et 14 minutes. 67 chiffres par minute en moyenne, soit plus d'un par seconde. Précisons que dans ce genre de concours, on n'a pas le droit à l'erreur.
Oui.
Hein. Pour participer, il faut réciter ces chiffres devant deux témoins absolument neutres. Et au-delà des 10 000 décimales, de toute façon, il faut un huissier ou un notaire.
3,14159265359793238463. 3, 8, 3, 2, 7, 9.
C'est impressionnant, ça, évidemment. C'est un champion français et pas indien. Il y a 2300 compétiteurs dans le monde, surtout des hommes d'ailleurs. Mais bon, les derniers ne retiennent que 20 décimales, limite minable. Comment fait-on pour retenir des dizaines de milliers de chiffres? C'est la question qu'on se pose tous, alors que vous et moi, on ne sait même plus mémoriser un numéro de téléphone, il faut bien le dire. Eh bien, un champion a livré son secret. C'est un Japonais, Akira Haraguchi. Il est censé avoir récité 100 000 décimales en 16h30, mais son record n'a pas été homologué. Il a quand même quelques chiffres entre les oreilles, cet homme. Des chiffres qu'il associe à une gamme de sons. Et à partir de ces sons, il a écrit environ 800 histoires, souvent des histoires d'animaux. Il lui suffit alors, si on peut dire, de déclamer ces histoires et il retrouve les chiffres. Alors pour le commun des mortels, ça reste abominablement compliqué. Mais pour un champion de la mémoire, visiblement, ça fonctionne. C'est une méthode qui rejoint celle du poète Maurice de Serres. Il a écrit un texte qui lui permet de retenir les 126 premières décimales du nombre pi. C'est un poème composé de 20 vers. Je vous lis le début, que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages, immortel Archimède, artiste, ingénieur, qui, de ton jugement, peut priser la valeur ? pour s'y retrouver, il faut compter le nombre de lettres dans chaque mot. Vous pouvez vérifier, ça marche. Que j'aime, ça fait bien. 3, 1, 4 et ainsi de suite. Il existe aussi une méthode qui date de l'Antiquité, la méthode des loci, les lieux en latin. Ça marche en fait pour n'importe quelle liste, hein, des chiffres ou autre chose. Il faut associer chaque donnée à un lieu dans un palais imaginaire et puis mémoriser son trajet dans le palais. Bon, ok Yves, je sais, quand on erre dans un palais à 70 000 pièces, on est quand même perdu. Mais il paraît que ça marche. Les décimales de pi, c'est un article très instructif à lire sur le site Slate.
Vous avez donné le vertige. Merci beaucoup Isabelle. À demain matin.
À demain.
Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui la journée mondiale du recyclage. Une pratique écologique désormais bien intégrée dans les habitudes des Français. Mais a-t-elle vraiment un impact? Eh bien, posons la question à notre expert scientifique. Bonjour Michel Chevalet.
Bonjour, le recyclage, comment ça marche? C'est très simple, il s'agit du processus de transformation d'un produit visant à lui offrir une nouvelle vie. Il est très efficace pour certains matériaux, mais reste encore hasardeux, voire carrément nuisible pour d'autres.
Ah oui, mais expliquez-nous ça Michel.
Prenons l'exemple de cette chanson de Jacques Brel.
Tu t'inventerais des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer.
Ça, c'est émouvant, c'est bouleversant.
Oui, c'est émouvant, c'est bouleversant. Écoutons oui. Désormais la version recyclée de cette chanson de Jacques Brel par oui. Isolde et Camélia Jordana.
Je t'inventerai des mots insensés, tu comprends. Je te parlerai de ces amants qui en sont.
C'est vrai que vu comme ça.
On a un petit coup d'accordéon.
Et ben voilà, voilà, la démonstration est faite.
Arrêtons le massacre.
Le recyclage, c'est bien pour le verre ou pour le papier, mais pour les chansons, autant s'abstenir, d'autant plus quand elles sont éternelles.
Oh, pardon, Joe Biden.
Ah oui. Ah, ça, c'était les victoires de la musique, on a eu les Césars après.
Ah, bah oui, bien sûr. Joe Biden a dû renvoyer ses deux chiens de la Maison Blanche après que l'un d'eux a mordu un agent de sécurité. Pour en parler, nous recevons un des plus influents membres de l'administration de Washington, John Rambo.
Il est dans le canard maintenant.
C'est le clébard, c'est notre seule source d'amusement depuis que Sleepy Joe il a installé sa baignoire à porte à la Maison Blanche. Je m'en vais bien avec eux, presque autant qu'avec Donald quand il écrivait ses tweets.
Mais c'est-à-dire, John?
Quand le vieux a posé son cul dans le bureau ovale et qu'il nous a dit qu'il avait ramené ses deux clebs, vu son âge, on s'est dit que ce serait des caniches ou des Yorkshire, tu vois, des oui. petits trucs à mes mères.
Dis donc. Mais,
ah oui, c'est vrai que t'en as un.
Bah oui, j'en ai un.
Mais pas du tout. C'était deux bergers allemands magnifiques avec des mâchoires comme t'en as jamais vu.
Bon, et alors?
Alors,
ça change la donne.
On s'amusait bien avec Champ et Major. On leur envoyait le bouton nucléaire, ils le ramenaient à chaque fois.
Quoi? Mais c'est très dangereux ce que vous faites.
Quoi? On faisait la même chose avec Donald et ça se passait très bien. Toujours en met la queue, mon Donald.
Oui, bon, pour la sécurité de tous, il vaut mieux que ces deux chiens soient loin de la Maison Blanche, voilà.
Je parle pas de ça. Ça me rappelle un souvenir que j'arrive pas à me sortir de la tête.
Bon, alors racontez-nous, John. Ça vous soulagera.
C'est du temps de Donald, quand il voulait se débarrasser de Kung Fu Panda, le petit gros coiffé comme un balai à chiottes.
Vous voulez parler de Kim Jong-un, oui, le leader nord-coréen, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Donald, il nous dit, les gars, vous allez bouffer du pékinois. On s'est dit qu'on allait faire la guerre à Pékin, ça nous plaisait bien.
Non mais Pékin, c'est en Chine, hein, pas en Corée du Nord.
Ouais, c'est pareil tout ça, on va pas chipoter. Toujours est-il que, pour s'entraîner à bouffer du pékinois, Donald, il nous a amené dans un resto niakoué à Washington. Sauf ce qu'on a bouffé, c'était vraiment du pékinois, pas assez cuit. Mon pote Bobby, quand il a mordu dans son rouleau de printemps, le rouleau de printemps, il a fait waf waf.
Mais c'est affreux, pauvre bête.
Le pire, c'est que le pékinois, il avait recongelé après avoir été décongelé.
Oh là là.
Alors, du coup, mon pote Bobby, la guerre, il l'a faite dans les gogs, c'était un carnage, j'en avais marre d'eux.
Ah non, mais écoutez, quelle horreur.
Alors moi, ce que je veux, c'est Sleepy Joe, il rappelle les bergers allemands. Promis, on les bouffera pas en strudel.
Depuis que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont coupé les ponts avec la famille royale britannique, les tensions se multiplient entre les deux familles. Ah bon ? On fait le point, eh oui, sur cette délicate situation avec notre spécialiste Stéphane Bern. Ah.
Bonjour mademoiselle Jeanne, je suis en colère, je suis courroux, je suis rogne, je suis vengeance.
Oh, ah bon, carrément. Alors dites-nous tout Stéphane, ce sont les dernières déclarations de Meghan Markle qui vous chiffonnent?
Je préfère appeler cette intrigante de son nom officiel, la duchesse de Sussex. Car ce n'est pas pour rien que la Queen Elizabeth the Second lui a donné ce titre, si vous voyez ce que je veux dire.
Bon, on préfère pas. Qu'est-ce qu'elle a dit de si grave dans ses confessions à Oprah Winfrey sur CBS?
Tout, elle a tout dit. Alors que je suis en train de préparer un nouveau livre sur les dessous de la royauté, elle m'a grillé la politesse, votre safrane.
Meghan, Stéphane, hein, pas safrane. Vous vous trompez de modèle. Et le prince Harry aussi vous agace?
Lui aussi. Il commence à me courir sur le Haristo. Songez qu'il va toucher 150 millions de dollars en sonnant et trébuchant de Netflix pour raconter les secrets de Buckingham Palace, alors que moi, pour mes secrets d'histoire sur France Télévisions, je dois repasser moi-même mes chemises à jabot. Je dis haro sur les roast beef.
C'est donc le moment de tourner une page de publicité.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien animateur qui, entre deux régimes comme j'aime, écrit des livres sur sa mamie cocu. Aujourd'hui, je vais voir un homme qui l'a bien connu, mamie cocu, c'est Alain Delon.
Il n'a pas honte, petit, d'écrire des saloperies sur la grande, la sublime, la merveilleuse Simone.
Oui, mais comme j'arrive pas à me passer de mes hamburgers avec supplément maillot, j'arrête pas de grossir. Là, je ressemble à un loukou, mais du coup, comme j'aime, menace de plus me verser mes 200 000 boules. Alors, je suis bien obligé d'écrire des livres sur Mamie Cocu et Vive mon temps, Papy Cotard.
C'est horrible.
Cesse.
Oh non.
Cesse d'importuner Alain Delon. Quand je te vois avec ta perche à selfie, je me dis que le cinéma est mort. Imagine ton Melville, Visconti, Clément, Doré. Tourner avec une perche à selfie.
Ah oui, j'ai pas entendu ça, c'est sympa, la perche à selfie.
Non. Alors retourne à tes infâmes écrans publicitaires. Va manger tes frites. Et laisse-nous avec nos merveilleux souvenirs.
Ah non, parce qu'il y a des cocu, même.
C'est pas possible.
Mais vous ne respectez rien.
Mais vous ne respectez rien, mais vraiment, mais c'est pas possible.
C'est pas vrai.
Oh là là. Bon bah écoutez, alors si nous respectons une chose, c'est qu'on vous retrouve demain matin et que vous on voilà. vous retrouve d'ici là sur le site RTL.fr.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Merci à toutes les
merci.
Hein.
Merci.
À demain.
Et bonne journée. Hein. Ouais. Et bon appétit.
Merci. Salut. Ah, ça sera mieux que comme j'aime dans un instant puisque Cyril Lignac est déjà avec nous et que nous allons aujourd'hui donner une excellente recette de noix de Saint-Jacques.
Oui, il faut en profiter.
Et oui, à tout de suite, Cyril.
RTL. I'm not gonna cry, won't give you what you want, cause I look way too good tonight.
Toujours avec vous.
RTL Matin, Yves Calvi.
C'est Nora qui vous demande aujourd'hui, cher Cyril, ce que vous proposez comme recette de saison pour les noix de Saint-Jacques. Alors, on adore ça tous les deux. Hein.
Alors oui, et puis surtout, il faut en profiter parce que ça va bientôt être la fin de la saison. Alors les coquilles Saint-Jacques, ce qui est génial, c'est qu'on peut les manger crues, en carpaccio, en tartare, comme cuites avec une noisette de beurre. Donc là, ce que j'aime, c'est toujours garder la coquille chez le poissonnier. Et là, on fait une petite tombée de feuilles d'endive qu'on émince finement. On ajoute toujours une petite pincée de sucre, une belle noisette de beurre demi-sel. Si on a une petite orange, on presse dessus pour les caraméliser naturellement à l'orange. Et ensuite, on cuit les coquilles Saint-Jacques que d'un seul côté, avec du beurre, on les arrose bien. Comme ça, on les a nacrés à l'intérieur.
Ça va nourrir la Saint-Jacques.
Ça va nourrir la Saint-Jacques. Et surtout, ça va la cuire d'un côté. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'elle soit quand même très peu cuite. Parce que c'est là où on a la quintessence de la Saint-Jacques. Ensuite, on la dépose sur notre, à l'intérieur de la coquille avec les petites endives. La Saint-Jacques. On fait un petit beurre fondu. On ajoute un petit jus de citron. Pas de crème aujourd'hui, là. Et on peut rajouter un petit peu de sarrasin. Croustillant comme ça, un peu breton. Et là, c'est délicieux.
J'ai déjà tellement faim alors qu'il est 9h. Merci Cyril, à
merci.
Demain.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Jérôme Flora.
18 millions de Français suspendus aux annonces de Jean Castex. Ce soir, le Premier ministre devrait annoncer un reconfinement de l'Île-de-France et des Hauts-de-France dès samedi. Mais sous quelle forme? Un début de réponse avec le maire de Poissy dans les Yvelines, Carl Olive, qui a reçu hier Emmanuel Macron. Il était sur RTL ce matin.
ça peut aussi vouloir dire interdire les déplacements inter-région et parfois inter-départementaux. Alors ça sera peut-être pas le cas dans les prochains jours. En tout cas, ça fait partie de la petite chanson que les élus ont pu lui faire remonter. Monsieur Calvi, vous pourrez pas aller en Normandie ce week-end parce que vraisemblablement ce sera interdit.
Plus de 38 000 nouvelles contaminations enregistrées hier en France. On n'avait pas atteint un tel niveau depuis la deuxième vague de novembre. L'AstraZeneca, dangereux ou pas? L'Agence européenne des médicaments se prononce aujourd'hui. Un feu vert relancerait la campagne de vaccination en France sur pause depuis mardi. 160 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté la crise l'an dernier à l'État, d'après le ministre des Comptes publics. Et puis le Paris Saint-Germain, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont éliminé le leader du championnat, Lille, 3-0.